Ariel Schwarzberg qui donne pouvoir à Sonia Vasseur, Philippe Manzano qui donne pouvoir à Pascal Hubert, Christian Novecki qui donne pouvoir à François Henrion, Mamar Mehalil qui donne pouvoir à Chantillot, Erfan Souika qui donne pouvoir à Cédric Gout, Jean Combel qui donne pouvoir à Pierre Fachot, Nathalie Cassiola qui donne pouvoir à Thierry Horry, Damien Thiel qui donne pouvoir à René Le Borgne, Blaise Tafner qui donne pouvoir à Isabelle Lux, Béatrice Agamemnon qui donne pouvoir à Catherine Gervais, Attila Sapsi qui donne pouvoir à Corinne Friot, Antoine Dor qui est représenté par son suppléant Eustache Tribit, Vincent Dieudonné qui donne pouvoir à Sylvie Roux, Walter Kussmann est excusé, Marc Siamana devra quitter la séance à 9h30 et donnera à ce moment-là pouvoir à Éric Fison. Anne Stémar devra quitter la séance à la même heure et donnera pouvoir à Emmanuel Lebeau. Simon Réfaux quittera une demi-heure plus tôt à 19h et donnera pouvoir à Patricia Sallusti. Et Julien Husson, lui, arrivera en retard et donne en attendant procuration à Gertrude Gokaljop. Voilà ce que j'ai reçu comme excuse et procuration. Je vous propose de désigner comme directeur, comme secrétaire de séance, Madame Sylvie Goustiot, directrice générale adjointe, en souhaitant un prompt rétablissement à notre directeur général des services. Voilà, il s'est tordu quelque chose ou cassé quelque chose en montagne et qui nous reviendra vite. Je crois que nous n'avons pas arrêté de compte rendu précédent, sinon, non. Alors, nous passons au point numéro 1 de l'ordre du jour, qui sont les délégations données au président. Donc, la fiche de synthèse n'est pas très synthétique, mais je vais vous la lire quand même. À la différence de l'article L2122 du CGCT qui fixe pour les maires une liste limitative des matières que le conseil municipal peut déléguer, l'article 5211-10 du CGCT définit de façon négative les attributions pouvant être déléguées par l'organe délibérant de l'EPCI. Il dispose dans son sixième alinéa de ce que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation et le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, de l'approbation du compte financier unique, des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article 1612-15, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'EPCI, de l'adhésion de l'établissement de l'EPCI à un établissement public, de la délégation de gestion d'un service public et des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat du territoire et de la politique de la ville. Pour permettre la bonne marche de la métropole, garantir un maximum de réactivité et simplifier le processus décisionnel tout en laissant au Conseil métropolitain l'examen des dossiers stratégiques à fort enjeu et ou impliquant un engagement politique important, il est proposé au président et par délégation une liste de matières. Lors du précédent mandat 2020-2026, le président disposait déjà d'une telle délégation. Quelques modifications sont proposées. On peut citer notamment la mise à jour des délégations finances à l'aide d'un cabinet de conseil, l'ajout de délégations relatives au dépôt de marques ou de noms de domaine, ou encore l'ajout de l'attribution des aides issues des dispositifs spécifiques tels que le fonds Herbois, le fonds initiative locale pour l'agriculture et l'alimentation de proximité. Il est proposé de conserver les délégations dont disposait le président lors du précédent mandat en matière de gestion foncière et patrimoniale, propriété de l'Eurométropole de Metz, commande publique, sinistre, affaires juridiques financières, gestion de la dette, de la trésorerie, d'archéologie préventive et de cohésion sociale, de l'habitat, de l'aménagement et de l'urbanisme et des espaces publics. La délégation du Conseil du président est actualisée par rapport à la précédente délégation. Les CIF qui ne sont plus en vigueur ont été supprimées. Enfin, les délégations confiées donnent par la suite lieu à un compte-rendu en application de l'article L5211-10 qui dispose que lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. Il est donc proposé la motion en conséquence. Ah, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Alors, vous comptez. Très bien. 8 abstentions. Donc les autres votent pour. Je vous remercie. Alors, point numéro 2, délégation du Conseil, non plus à l'exécutif, mais au bureau. Le bureau d'un EPCI est composé du président, du ou des vice-présidents et d'un ou plusieurs membres. Le cas échéant, le bureau ne dispose pas d'attribution propre. Les dispositions de l'article L5211-10 du CGCT prévoient que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation et le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, à l'exception du vote du budget de l'institution d'affixation des taux. Mais je crois que c'est le même, non ? Attendez. Je ne vais pas vous faire une lecture fastidieuse, hein ? C'est exactement les mêmes dispositions. Donc, la délégation du Conseil du Bureau permet d'assurer la bonne marche de la métropole et de garantir l'efficacité et la réactivité d'action administrative avec des réunions fréquentes réunissant le président, le vice-président et les autres membres du Bureau, dûment élus par le Conseil, principalement sur les sujets d'administration courante. Donc, ce Bureau a été élu lors de la précédente séance. L'exigence de transparence démocratique est garantie dès lors que les délégations ainsi confié donne lieu à un compte-rendu en application de l'article L5211-10 qui dispose que lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation d'organe délibérant. De plus, l'étendue des matières réservées au conseil conduit à un examen de ses stratégies d'orientation en jeu ou encore fixant un cadre d'action générale aux politiques publiques de l'Eurométropole de Metz. Je vous demande de rectifier dans les délibérations. Pas de copier-coller, on s'appelle désormais Eurométropole de Metz et non plus Metz Métropole. C'est pourquoi il est proposé de donner délégation au bureau des attributions du Conseil métropolitain, à l'exception de celles mentionnées à l'article 5211-10 du CGCT, délégation confiée par le Conseil au Président. Lors du mandat passé, le bureau disposait déjà de cette délégation. L'étendue des matières réservées au Conseil métropolitain fait l'objet d'une annexe à la présente, apportant détails et précisions. Il est à souligner que l'étendue de la délégation du Conseil du bureau pourrait être réexaminée ultérieurement par adoption d'une nouvelle délibération, et donc il est proposé la motion en conséquence. Des demandes d'intervention ? Oui, Madame Le Duc.
Bonjour. Bonjour, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers. Je voulais indiquer que nous allions voter contre la délégation du Conseil au bureau parce que tel que c'est proposé dans la délibération, il ne reste que finalement 7 points qui sont dans les mains du Conseil et tout le reste est délégué au bureau comme par exemple le vote des subventions aux associations ou encore les emprunts. Et évidemment, nous sommes contre parce que nous sommes pour que le Conseil garde le pouvoir. Nous sommes pour une démocratie la plus partagée possible, un partage des pouvoirs et une transparence. Ouais.
Bien, dont acte. Vous ferez remarquer qu'on est dans la continuité de ce qui s'exerçait sous le précédent mandat, mais même sous celui d'avant, et que la gauche au pouvoir à Metz, à l'époque, avait approuvé cette délégation donnée au bureau et le pratiquer. Sur un plan pratico-pratique, on a des réunions de bureau très souvent, même en faisant tous les mois, de plus de 60 points, et que ce serait, à très bien, absolument ingérable en séance plénière. C'est pour ça d'ailleurs que la loi a prévu ces dispositions. Il en est de même dans les collectivités départementales et régionales, avec ce qu'on appelle les comités, les commissions permanentes, en fait, qui ont ces fonctions de bureau et qui délibèrent, mais sur délégation de l'Assemblée plénière. Alors, qui vote contre ? 4. Qui s'abstient ? 4. Je vous remercie. Alors, point numéro 3. Alors, indemnité de fonction du président, des vice-présidents et des conseillers délégués des conseillers, dont l'article L5211-12 du CGCT impose aux EPCI de fixer des indemnités de leurs membres dans les 3 mois qui suivent le renouvellement. Le décret de 2004 encadre leur calcul basé sur l'indice terminal de la fonction publique et modulé selon la population. Les indemnités maximales des conseillers sont définies par l'article L2123-24-1 avec un plafond global pour les conseillers délégués. Il est proposé de fixer les indemnités de fonction selon les modalités de calcul suivantes. Président, 79,31% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Vice-président, 41,68% de l'indice terminal de l'échelle indiciaire. Conseiller délégué, 17% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire. Et conseiller, 6% de l'indice brut terminal. Les indemnités seront versées dès l'entrée en fonction et revalorisées automatiquement selon l'évolution d'indice à fonction publique. Tableau récapitulatif est annexé et les crédits budgétaires correspondants sont engagés. Alors, qui a demande la parole ? Non. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Alors, 4. Je vous remercie. Voilà. Je me permets de vous dire que les indemnités que nous nous fixons sont plus basses, on sait par celles du président et des vice-présidents, que dans les métropoles comparables. Ensuite, nous passons au point numéro 4. Commission d'études thématiques. L'Eurométropole de Metz a adopté un règlement intérieur en décembre 2022 encadrant les commissions d'études thématiques chargées d'avis sur les projets de délibération. Chaque conseiller métropolitain titulaire est membre d'une commission d'études thématiques et peut choisir de siéger dans une seconde commission. Les conseillers suppléants peuvent également participer à une commission de leur choix. Titulaires et suppléants ont dans ce cas, voix délibérative. 2 conseillers municipaux non conseillers métropolitains par commune membre, ne disposant que d'un seul siège au conseil métropolitain, peuvent également participer en qualité de membre à une commission d'études thématiques dans lesquelles ils siégeront avec voix consultative. Un amendement vous a été transmis afin de modifier l'intitulé de la commission de développement économique dans le but d'en clarifier les missions. Il vous est proposé de remplacer commission de développement économique par commission enseignement supérieur, innovation et développement économique. Il vous est donc proposé de fixer comme suit la liste des commissions d'études thématiques resserrées autour de 5 grandes thématiques suivantes. Culture, tourisme, sport et relations internationales. Enseignement supérieur, innovation et développement économique. Ressources, dans lequel on englobe les finances, les ressources humaines, le foncier, la stratégie et l'administration générale. Services urbains et transition écologique, donc qui traite la voirie, la mobilité, les déchets, l'eau, l'énergie et la transition écologique. Et urbanisme et solidarité, qui traite à la fois de l'habitat, de la cohésion sociale, de l'urbanisme et de la sécurité. L'article 54 du règlement intérieur est modifié en ce sens. Le fonctionnement des commissions demeurant, quant à lui, est inchangé. Voilà. Et les élus seront invités à formuler leurs vœux. Un courriel vous sera transmis à cet effet et il conviendra d'y répondre en indiquant les commissions auxquelles vous souhaitez participer et de le retourner dans les délais impartis. Voilà, donc sur la constitution de ces 5 commissions, est-ce que quelqu'un demande la parole ? Eh bien, je mets la délibération aux voix. qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Alors, point numéro 5, c'est les lieux de réunion de l'organe délibérant. Au terme de l'article 5211-11 du CGCT, l'organe délibérant se réunit au siège de l'EPCI ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. Alors, inutile de vous dire que nous n'avons pas de salle au siège de dimension suffisante pour accueillir le conseil métropolitain. Et donc, nous vous proposons de fixer les lieux de réunion dans les espaces suivants. La Chambre des métiers d'artisanat d'Amoselle, c'est là où nous sommes ce soir. Le CESCOM, c'est là où nous étions la dernière fois. Le Centre de congrès Robert Schuman. L'hôtel de région. La salle Europa, à Montigny-les-Metz. L'amphithéâtre de l'ENSAM. Le Centre Pompidou. Et le NEC à Marly. Voilà. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Ah, pardon. Oui, Madame Voisson. Oui, vous demandez la parole ? Oui, je vous en prie.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Sur ce point relatif au lieu de réunion du Conseil métropolitain, nous souhaitons faire une observation. Si le Code général des collectivités territoriales nous permet effectivement de diversifier les lieux de réunion, il nous semble important de rappeler qu'un conseil métropolitain n'est pas un événement comme un autre, c'est une assemblée délibérante. Et sur ce point, il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, un seul lieu répond clairement à ses exigences, c'est l'hôtel de région, avec sa configuration en hémicycle, exactement comme celui du conseil départemental, hémicycle qui, par ailleurs, n'est pas proposé dans le rapport. Ce type de configuration est essentiel, il garantit une bonne condition de travail, une égalité de traitement entre les élus, une visibilité claire des interventions et une qualité de débat conforme à ce qu'on attend d'une assemblée démocratique. Nous avons vu la construction du centre de congrès de Metz présentée comme un équipement structurant, mais dans les faits, son utilisation pour notre conseil pose une question évidente, celle de son coût pour la métropole, qui reste particulièrement élevé pour tenir une simple séance. En conclusion, nous ne sommes pas opposés à la diversité des lieux, mais pas à n'importe quel prix, ni dans n'importe quelle condition. Ce que nous attendons, ce sont des choix cohérents, respectueux à la fois des deniers publics et du rôle des élus. Je vous remercie.
Merci. Donc j'ai le même souci que vous de l'économie des deniers publics et je recommande toujours au service de prendre d'abord là où c'est le moins cher. Bon. Deuxièmement, vous avez mal lu, ou j'ai mal lu, j'en sais rien, mais j'ai bien, avant la salle Europa et après le centre de congrès Robert Schuman, j'ai bien cité l'hôtel de région. Bon. Donc l'hôtel de région fait partie des salles dans lesquelles nous pouvons organiser les séances du conseil métropolitain. On a cependant une difficulté technique à l'hôtel de région que j'affectionne particulièrement comme vous. Mais qui est lié à la Wi-Fi informatique que pour l'instant nous ne pouvons pas utiliser celle de la région pour des raisons de sécurité informatique. Donc ça nous pose ce problème technique. Voilà. Alors, je suis comme vous, c'est le lieu que je préfère, donc on le demande quand il est disponible, mais je souhaite qu'on puisse régler avec la DSI de la région ce sujet, mais qui pour l'heure ne l'est pas encore. Oui ? Oui, Madame Vincent ? Non, il n'est pas proposé dans le rapport. Il n'est pas assez grand, me dit Lebeau. Voilà. Il y a une cinquantaine d'élus, quoi, 50. Oui. Oui, je crois qu'il y avait 80, mais effectivement, il est trop petit. On ne tient pas à 100. Alors qu'au sein du conseil régional, je crois qu'on tient à 150. Il avait été fait à l'époque pour pouvoir accueillir simultanément le conseil régional de Lorraine et le Césaire de Lorraine. Et donc c'est le plus grand des hémicycles, d'ailleurs, des hémicycles des trois anciennes régions, d'ailleurs. Plus grand que Strasbourg, ou a fortiori que Sud-Chalon. Voilà, ces précisions étant données, je propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? L'unanimité, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 6, le droit à la formation des élus métropolitains. Alors, le droit, la formation des élus métropolitains, encadrée par le CGCT, prévoit une formation adaptée à leurs fonctions, décidée par le Conseil métropolitain dans les 3 mois suivant son renouvellement. Il est proposé d'inscrire au budget principal une enveloppe annuelle dédiée à la formation des élus métropolitains égale à 5% du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux membres de ce conseil. De préciser que pour relever du droit à la formation ouvert au conseil métropolitain, la formation doit permettre l'acquisition des connaissances et compétences directement liées à l'exercice du mandat local. La gestion et les politiques publiques, finances, marchés, démocratie locale, transition énergétique, gouvernance, les compétences spécifiques de la métropole, l'efficacité personnelle, communication, négociation, gestion des conflits, outils bureautiques. De préciser que les formations relatives à l'exercice du mandat doivent être dispensées par un organisme agréé par le ministère chargé des collectivités territoriales et que la prise en charge de la formation des élus sera subordonnée à une demande préalable ainsi qu'à la fourniture d'un état justificatif des dépenses. Afin de rappeler que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'auront pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits seront affectés à la totalité du budget de l'exercice suivant sans pouvoir être reportés au-delà de l'année en cours de laquelle interviendra le renouvellement de l'Assemblée délibérante. Voilà. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 8. Frais de fonctionnement des groupes d'élus. Il est proposé d'attribuer au groupe d'élus des locaux administratifs meublés équipés de mobilier, d'ordinateurs, d'une ligne téléphonique et d'une connexion Internet. Les frais liés aux fluides, au nettoyage et à l'accès Internet seront pris en charge gratuitement. Quand rien n'est gratuit, c'est de dire par la métropole. Les modalités d'utilisation seront définies par accord entre les présidents des groupes et le président de la métropole. Une enveloppe annuelle de 15 000 euros sera allouée pour couvrir les dépenses administratives, télécommunications, impression, courrier, fourniture, documentation. Cette somme sera répartie proportionnellement au nombre d'élus de chaque groupe. Les groupes décideront librement de son utilisation sous contrôle du président pour les commandes. Le budget prévoit le financement de collaborateurs pour les groupes dans la limite de 25% du montant total des indemnités des élus, soit un taux inférieur au plafond légal qui est de 30%. La répartition se fera au prorata du nombre d'élus par groupe. L'Europe métropole restera employeur avec un contrat à durée déterminée maximum de 3 ans, renouvelable jusqu'à 6 ans. Les collaborateurs ne peuvent être tutélarisés. Leur contrat est lié à la mandature. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Pardon ? Oui, je vous en prie.
Merci. Monsieur le Président, chers collègues, nous comprenons fort bien la nécessité de fixer un seuil pour structurer les groupes et organiser le travail de notre Assemblée. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint, cela peut avoir pour effet de limiter l'expression de sensibilité pourtant bien présente sur notre territoire. Nous souhaitons ici rappeler un élément qui interroge. Dans plusieurs communes de l'Eurométropole, une formation politique comme le Rassemblement national a recueilli autour de 30% des suffrages lors des élections européennes et législatives. Et pourtant, faute d'atteindre le seuil requis dans cette Assemblée, ces électeurs ne disposeront pas de groupe constitué. Il y a une forme de contradiction qui mérite d'être posée sereinement. Comment concilier l'indispensable organisation de nos travaux avec l'exigence de pluralisme démocratique et de représentation des voix exprimées par nos concitoyens ? Je vous remercie.
Écoutez, je crois que nous y répondons, mais dans cette Assemblée, nous organisons et nous soutenons justement l'expression pluraliste, mais nécessairement en fonction du nombre d'élus et non pas du nombre de voix de ceux qui n'ont pas été élus. On tient à cette représentation proportionnelle. Nous avons fixé des seuils assez bas pour garantir que les sensibilités politiques qui sont exprimées comme telles aux élections municipales, ce soit soient représentés. Les moyens, je veux dire, sont strictement proportionnels. Et je crois que voilà, nous remplissons l'objectif qui est de donner les moyens à chaque élu de pouvoir travailler. Je rappelle que les collaborateurs de groupe sont là pour aider les élus à travailler dans cette assemblée. Les moyens ne sont pas des moyens dédiés aux partis politiques, que il y a une autre législation et d'autres moyens consacrés par la loi pour l'expression des partis. Là, il s'agit bien d'aider les élus dans l'exercice de leur mandat. Donc, je pense que à la fois en mettant le seuil des groupes conformément finalement à l'expression démocratique qui se prend aux élections, nous respectons la volonté des électeurs. Et je voudrais dire que sur le droit d'expression, il est individuel, je le rappelle. C'est-à-dire que même si à un moment un élu était isolé d'un groupe, un ou deux, et décidé d'être en dessous, effectivement, il n'y a pas les moyens donnés à un groupe. Mais en revanche, le droit d'expression est individuel, contrairement aux assemblées parlementaires, où souvent on est dans le temps de parole d'un groupe. Il n'y a pas de temps de parole de groupe dans la collectivité territoriale. Et même l'expression dans le magazine de la métropole comme celui d'Avic de Metz, ceci est proportionnel à l'effectif du groupe, malgré tout il reste individuel. Voilà. Donc sur ce, je vous propose de passer au vote. Donc qui vote contre? Alors 4. Voilà, vous aurez les moyens quand même, c'est pas grave. Bon, qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, point numéro 8, les désignations des représentants de leur métropole dans divers organismes. Alors, suite au renouvellement du Conseil métropolitain, il convient de procéder à la désignation des représentants de leur métropole au sein de 43 organismes. 43, c'est ce soir. On en aura d'autres pour les séances suivantes. Oui, je disais bien. Donc tel que précisé dans les tableaux annexés, mais on va les afficher. Non, on les affiche pas, il n'y a pas de... Si, c'est derrière moi. Il y a le PowerPoint derrière moi. Il est proposé de ne pas procéder au vote à bulletin secret au sein des organismes extérieurs. Cette possibilité doit faire l'objet d'un vote à l'unanimité. Il est également proposé de ne pas voter à bulletin secret pour les nominations des délégués au sein des syndicats mixtes. S'agissant des SPL, des sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte locale, de la société d'économie mixte à opération unique, la délibération qui vous a été transmise prévoyait d'autoriser certains représentants à désigner à porter la nature de leur métropole à présidence de ces conseils d'administration. Une précision doit être apportée sur ce point. Après vérification juridique, il apparaît que la mention relative à l'autorisation de certains représentants de porter candidat n'a pas lieu de figurer dans les délibérations. C'est bien ce qui me... Ben oui, donc je vous ai dit qu'on mettait ce qu'il était obligé de faire et non pas le contraire. Voilà. En effet, les statuts de ces organismes prévoient que le président est élu directement par les administrateurs, parmi eux sans désignation préalable par la collectivité. Proposons de sécuriser cette délibération et de retirer cette mention, tout en maintenant la désignation des représentants de leur métropole à la présence de ces organismes. Bien. Alors, je vous demande d'abord si vous êtes d'accord de ne pas voter à vote à bulletin secret pour les désignations dans les divers organismes et dans les syndicats mixtes. Personne n'est contre ni ne s'abstient, donc nous voterons à main levée. Alors comment on procède? Vous allez alors, je vous propose à l'agence locale pour l'énergie et le climat du pays messin, deux représentants titulaires, Anne Frisch-Renard, et Philippe Glaser, deux suppléants Frédéric Naveau, Béatrice Agamemnon. Qui vote contre, qui s'abstient. Alors par contre, donc, on a 8 abstentions. Très bien. Ce n'était pas des votes contre, hein, des abstentions. On est d'accord. Il y a les autres votes pour. De la Guram. Donc 20 représentants à l'Assemblée Générale. Donc Marilyn Weber, Philippe Manzano, Anne Frisch-Renard, Jean Combel, Frédéric Narro, Jean Baucher, Frédéric Laugin, Pierre Fachot, Walter Skursman, Philippe Glaser, Fatia Ada, Martine Nicolas, Béatrice Agamemnon, Martine Michel, Yves Dieudonné, Roger Pelletier, Jean-Luc Coury, Marie-Claude Voinçon, Jean-François Seconde et Simon Riffaut. Et voilà. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. À l'association Atmo. Donc, nous avons deux candidats. Donc, comment on fait à ce moment-là? On vote à main levée pour l'un et pour l'autre ou... Oui. Bon. Alors, on vote à main levée pour l'un ou pour l'autre ou pour personne. Je demanderai qui s'abstient. Qui vote pour Madame Anne Frisch-Renard? Ceux qui ont une procuration, lèvent les deux mains. Je vous prie de bien vouloir compter avant qu'on soit tous atteints de crampes. Bon, on va faire l'inverse. On va demander qui vote pour M. Grégoire et qui s'abstient. Voilà. Pardon? Attendez. Non. Qui vote pour M. Jean-Louis Grégoire? Une voix. Qui s'abstient? Attendez. Non, bien, je vous remercie. Alors, oui, Anne Frisch-Renard est élue. Oui, oui, donc les autres votent pour Anne Frisch-Renard. Hein. Mais ils ont levé la main tous. Ouais. Vu que les autres votent pour. Ouais. Bon. Alors, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, donc je vous propose monsieur le maire du site de Mercy, monsieur Dominique Strebli. Alors, qui vote contre, qui s'abstient? Alors, comptez 8 abstentions. D'accord. Ensuite, motion suivante, au centre hospitalisé spécialisé de Jury, donc monsieur Dominique Strebli et monsieur Geoffrey Schutz. Voilà. Le maire de Jury étant représentant au titre de la ville, je crois, comme je le suis. Ouais. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? 8. Alors, au suivant. Centre Pompidou, alors moi-même, Jean-Luc Baul, Corinne Friot, Emmanuel Lebeau, Philippe Manzano, Martine Michel, Annel Maillère. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bit. Merci. Ensuite, Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Cédric Goud, Blaise Staffner, Jacqueline Schneider, Olivier Raimondo. Qui vote contre? Qui s'abstient? Toujours même vote. Suivant. Au comité d'élus de suivi de la convention de coopération publique-publique entre l'Eurométropole de Metz, Aganis et le Sidélon. Donc Laurent Bovy, Martine Nicolas, Marc Biagioli, Frédéric Laugin. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle. de représentants Cédric Goutte et Olivier Raimondeau, qui vote contre, qui s'abstient. Même vote, 8. Donc, ensuite, comité de suivi du site d'Aganis et de l'UM, Laurent Bovy et Martine Nicolas, qui vote contre, qui s'abstient. Merci. Comité d'indemnisation amiable des entreprises, donc titulaire Blaise Tafner et Thierry Horry, suppléant Olivier Raimondeau et Éric Lucas, qui vote contre, qui s'abstient. 8 toujours. Donc ensuite, syndicat mixte des étangs de Saint-Rémy, titulaire moi-même Cédric Goutte, Henri Malasset, Thierry Pernet, Rachel Burgi, Nathis Pourmailleur, Anne Frisch-Renard, Corinne Friot, suppléant Antoine Dorjean, Luc Ball, Éric Lucas, Erfan Fouika, qui vote contre, qui s'abstient. Toujours 8. Donc ensuite, la CMEMH. Donc je présente une liste. Grégoire me disait sa candidature, mais je n'ai pas dit complète. Donc je soumets au vote la liste des 14 représentants. Moi-même, Guillaume Godet, Cédric Goutte, Frédéric Navro, Ferid Buran, Jacqueline Schneider, Dohan Tran, Salvatore Tabon, Omar Mealil, Béatrice Sagamenon, Chantillot, Frédéric Lejoin, Nathie Cascola et Walter Kursman. Et représentant à l'Assemblée Générale, Guillaume Godet. Qui vote contre, qui s'abstient. Ensuite, il n'y en a plus. Attendez. Allez, les abstentionnistes. Oui, et trois groupes d'opposition. C'est noté. Alors, ensuite, on continue. Le PFGE, l'établissement public foncier. Donc, on propose en titulaire M. Cédric Goutte et en suppléant M. Éric Lucas, qui vote contre, qui s'abstient. Alors, 8. Ensuite, la SPL Grand Est Infrastructure propose M. Philippe Manzano, qui vote contre, qui s'abstient. 8. Ensuite, la SPL Grand Est Mobilité, je propose encore Philippe Manzano, qui vote contre, qui s'abstient. 8. L'agence Inspire-Metz propose Cédric Goutte, Nathalie Sportmeyer, Corinne Friot, Anne Dossan Weissman, Jacqueline Schneider, Olivier Raimondeau, Philippe Brunella, Anaël Maillère, qui vote contre, qui s'abstient. 8. L'Institut numérique responsable propose Claire Ancel, qui vote contre, qui s'abstient. 8. Ensuite, Moselle Mécène Solidaire propose Corinne Friot, qui vote contre, qui s'abstient. 8. Pour la SPL, Metz Métropole, Moselle Congrès, je propose Jean-Luc Ball, Walter Kursman, Andossan Weissman, Philippe Brunel, Anne Mayer et Corinne Friot. Et en représentant à l'AG Jean-Luc Ball, qui vote contre, qui s'abstient. 8. Pour la SPL, Metz Parking, j'avais candidature individuelle, mais de Saint-Julien, c'est pas une liste complète. Donc moi je propose la liste avec Béatrice Agamenon, Ferid Buran, Gilles Forfer, Chantillot, Philippe Manzano et Marilyn Weber, et en représentant à l'AG Philippe Manzano, qui vote contre, qui s'abstient. 8. À la SEMES Technopole, propose moi-même Marc Siamana, Claire Ancel, Jacqueline Schneider, Julien Husson, Frédéric Logien, Éric Lucas et en représentant l'AG Julien Husson, qui vote contre, qui s'abstient. 8. Ensuite, à la mission locale du pays messin, proposée à Kinschneider, Fatia Adar, Yeltsortberg, Jean-Jacques Pisoni, Nawel Aboudan, Shadi Elnar, Laurence Thiel, Hassan Larraki, Geoffrey Schutz, Nathalie Cassiola, qui vote contre, qui s'abstient. 8. Ensuite, l'Orchestre national de Metz Grand Est propose la candidature de Jean-Luc Bolland titulaire et de René Le Borgne en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? 8. À l'Office foncier solidaire du Sillon Lorrain, représentant Guillaume Godet, qui vote contre? Qui s'abstient? 8. Alors, pour le réseau Vélo en Marche, je propose Joy Hendrix. Vélo et marche, pas Vélo en Marche. Ouais. Ça roule. Allez, qui vote contre? Qui s'abstient? Ensuite, la fondation de la résidence Sainte-Constance, c'est moi-même de droit, je suis très honoré, je propose comme suppléant Geoffrey Schutz. Qui vote contre? Qui s'abstient? 8. Pour la réunion des opéras de France, je propose Patrick Thiel, puisqu'il n'est pas nécessaire d'être membre de notre assemblée pour être proposé par l'assemblée. Qui vote contre? Qui s'abstient? 8. On note qui vote pour. Bon. Bien noté. SPL Sarem, je propose moi-même Erfan Chouika, Ferit Buran, Walter Kurzmann, Roger Pelletier, Jacqueline Schneider, Dominique Strebli, Pascal Hubert, et je propose de représenter à l'AG. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc là, c'est 8. Je vais voter pas pour moi, monsieur Rock. Je suis triste. Voilà. Paul métropolitain européen du Sillon Lorrain. Donc, il y a François Grodidier, Marc Siamana, Jean-Luc Bolando, Sanva Isman, Béatrice Agamemnon, Julien Husson titulaire. Et en suppléant, Cédric Gout, Anne Frisch-Renard, Philippe Gleiser. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, ensuite. Au groupement d'intérêt public du Sillon Lorrain. Il s'agit de la. C'est plus un projet, c'est une réalité aujourd'hui, la bibliothèque numérique de référence immédiat. En titulaire Jean-Luc Baul et en suppléant Dimitri Sokolovski, qui vote contre, qui s'abstient. 8. OTAM, j'avais la candidature de Saint-Julien, mais pas de liste complète. Alors, on vote OTAM, puis OTEM. L'ETAM, c'est la société économique qui gérait sous la présente concession et qui vit ses derniers jours. Et l'ETEM, les transports en métropole de Metz, sont la nouvelle SEM, la SEMOP exactement. Et qui prend la suite. Donc on propose les mêmes administrateurs aux deux. La SEMETAM, propose Béatrice Agamemnon, Chantillot, Abdelmajid Maouch, Tanguy Servet, Thierry Horry, Ferit Buran, Pascal Hubert, Marine Weber, Charlotte Leduc et Béatrice Agamemnon à l'AG. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 4. Merci. Et sur les thèmes, je propose Béatrice Agamemnon, Chantillot, Abdelmajid Maouf, Tanguy Servet, Thierry Horry, Ferit Buran, Pascal Hubert, Marine Weber, Charlotte Leduc et à l'AG Béatrice Agamemnon. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4. Bon, merci. À la SAD HLM Divest, je propose Erfan Chouika. Qui vote contre? Qui s'abstient? 8. Ensuite, à la régie de l'eau de Metz Métropole, donc nous avons deux collèges. Dans le premier collège, je vous propose Claire Ancel, Jean Baucher, Tanguy Servet, Nathalie S., Thierry Pernet, Damien Thiel, François Henrion, Thierry Horry, Nathalie Casciola, Véronique Crémer, Olivier Mitzner, Frédéric Navro, Roger Pelletier, Salvatore Tabonne et Dimitri Sokolovski. Et sur le deuxième collège, Michel Lisman, Bernard Staud, Antoine Dor, Lucien Vetch. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'être élu pour être au second collège. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? 8. Voilà. Suivant. Alors, pour le comité du syndicat des eaux de la région Messine, le CERM, on propose en titulaire Rachel Burger, Corinne Friot, François Henrion, Walter Kursman, Jean-Louis Ballarini, Antoine Dorf, Philippe Lézère, et en suppléant Henri Malassène, Frisch Renard, Julien Husson, Joy Yandrick, Sylvie Roux, Dominique Strebli et Jean Baucher. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 8. Pour le syndicat intercommunal du canal de Jouy, je propose Tanguy Gervais, Corinne Friot, Christian Vax, Clotilde Chambaud-Schwartz, Jacques Pisoni, Claude Bertsch, Claudie Fuzewski, Marie-Lise Glémé, Romuald Duda, et en suppléant Alexandre Laurent, Priscilla Pruvost, Frédéric Sartor, Pascal Bock, Valérie Bor et Michel Vibrat. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 8. Pour le syndicat mixte Moselle Aval, je vous propose François Henrion, Michel Lisman, Corinne Friot, Antoine Dor, Tanguy Servet, Joy Hendrix. Et en suppléant, Henri Malassé, Jean Baucher, Philippe Gleiser, Anne Frisch-Renard, Roger Pelletier, Véronique Crémer. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 8. Ensuite, pour la régie Aganis, je vous propose François Carpentier, Marc Biagioli, Rachel Burger, Fatia Ada, Véronique Crémer, Roger Pelletier, Martine Nicolas, Henri Malassé, Philippe Lézère, Anne Frisch-Renard, François Henrion, Laurent Bovy, Emmanuel Lebeau, Thierry Pernet, Thierry Horry, Frédéric Lejeune, Nathalie Sportmeyer et Corinne Friot. Et ensuite, au titre des personnalités désignées, enfin quoi, des, ce qu'on appelle les élégamment les PQ, les personnalités qualifiées, propose Claude Bertsch, Bernard Staud, Raymond Weinheimer, Éric Meux, Michel Lisman, Marc Sedel, Jamel Benkeroum, un représentant qui serait désigné par Mademoiselle, un représentant qui serait désigné par la Chambre d'agriculture et Monsieur Philippe Thévenin. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, pour le comité syndical du SCOTAM, Philippe Gleiser, Nathalie S., René Leborn, Irfan Chouika, Marilyn Weber, Jean Baucher, Roger Pelletier, Thierry Horry, Jean-Luc Ball, Pascal Hubert, Frédéric Navro, Anne Frisch-Renard, Claire Ancel, moi-même, Ando Sanweissman, Blaise Tafner, Jérémy Allois, Thierry Pernet, Philippe Manzano, Gilles Forfer, Corinne Friot, Catherine Gervais, Guillaume Godet, Aya Nafsi, Shadi Elnar, Etienne Anstedt, Charles Duc, Bertrand Mertz. Il y a des suppléants aussi ? Oui, il me semblait bien. Marc Siamana, Rachel Burger, Sylvie Roux, Cédric Goutte, Martine Michel, Nathalie Sportmeyer, Frédéric Laugien, François Carpentier, François Henrion, Dominique Strebli, Laurent Bovy, Antoine Postera, Jean-Baptiste Barthélémy, Antoine Dor. Et Jean-Louis Ballarini, Olivier Raimondo, Béatrice Agamemnon, Dominique Briot, Jean-Luc Coury, Pierre Fachot, Delphine Firtion, Damien Thiel, Olivier Mitzner, Grégory Kev, Jérôme Guerre, Victor Chomard, Barbara Bernardi, Patricia Salusti. Voilà. C'est bon, on a fini ? Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, unanimité. Ah oui, on n'a pas fini. Donc, l'école supérieure d'art de Lorraine, donc titulaire Jean-Luc Baud, Philippe Brunella, Dimitri Sokolovski, Annel Maillère, René Leborgne, et en suppléant Claire Ancel, Martine Nicolas, Marc Siamana, Béatrice Agamemnon et Ando Sanweissman. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, je vous remercie. 8. Pour le CROUS, en titulaire Marc Siamana et en suppléant Frédéric Navro. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 8. Ensuite, pour l'Université de Lorraine, en titulaire, Marc Siamana, en suppléant, Nathalie Sportmeyer, et à la conférence universitaire territoriale, Marc Siamana. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 8. Voilà. Donc, on passe maintenant à la motion 3. Donc, autorisation, certains représentants à prévoir une rémunération sur les SPEL, les SEM et les SEMOP. Donc, sur la SAREM, 250 € brut maximum pour la pension à une séance du conseil d'administration en qualité de délégué, 100 brut maximum pour la pension à une séance du conseil d'administration en qualité de délégué. Je me permets de dire que sur toutes les SEM, le travail ne se limite pas à la participation à des conseils d'administration, même si la rémunération est partant de présent au conseil d'administration. C'est une évidence pour le président qui est souvent, pas forcément quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, attaché à cela, et c'est le cas aussi pour les autres membres, puisque ce sont des sociétés qui ont leur propre commission, comité de pilotage, commission d'attribution d'appels d'offres, etc. Voilà. Tenez à cette pédagogie. Donc, on n'a pas d'ASAREM. Sur l'ETAM, propose la même chose, 250 € brut. Alors maximum, le montant réel versé est de 150 € aujourd'hui. Vous savez même pas. Bon, donc pour la participation à une séance et 600 € brut maximum pour le président. Et pour les thèmes, donc Clay proposait 150 € brut maximum. Donc les thèmes, c'est celle qui prend la suite pour la participation à une séance et 600 pour le président. La SPL MES Parking, 250 pour les administrateurs et 600 pour le président. On vote sur l'ensemble ? C'est pour séparément ? Non, c'est l'ensemble. Bien, donc qui oui, monsieur Chomard.
Oui, merci. Merci, monsieur le président. Bon, nous voterons contre la motion 3 parce que nous estimons que ce sont des dépenses superflues. Les élus ont des indemnités qui sont raisonnables, d'ailleurs on les a votées tout à l'heure, et qui nous paraissent méritées au regard du travail. Et nous estimons qu'il n'y a pas à rémunérer en plus, en supplément, des élus pour des participations à certains organismes. Je précise, avant qu'on me qualifie de démagogue et autres, que au début du mandat 2014-2020, certains élus qui sont encore présents ici, je pense à Mme Colin Osterlé, M. Lebois, s'étaient opposés à de telles rémunérations et avaient même fait un amendement en ce sens. Merci.
Et Mme Leduc.
Oui, merci, Monsieur le Président. Avec l'Union de la gauche et des écologistes pour Metz, nous voterons contre aussi parce que nous estimons que ces rémunérations n'ont pas lieu d'être dans le rôle que nous avons en tant que représentants, en tant qu'élus pour siéger dans ces conseils. Et donc, nous voterons contre et nous refuserons pour notre part les rémunérations qui sont associées au siège que nous avons. Merci.
Merci. Je voudrais encore là faire simplement remarquer que c'est un discours très classique des oppositions. Je lis très à l'aise, que les oppositions soient de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. On l'entend toujours lorsqu'on est dans l'opposition, mais lorsque ces mêmes familles politiques gèrent des collectivités, elles pratiquent exactement la même chose. Voilà. Et dans les collectivités gérées par le RN ou gérées par les différentes parties de gauche, je veux dire c'est cette pratique est la même, elle est simplement la même parce qu'elle est à la fois légale et légitime par rapport à d'autres élus. C'est un surcroît de travail. Voilà, donc on aurait même pu souhaiter, comme c'est le cas pour les agents des collectifs ou les salariés, que les indemnités soient de plein droit, comme c'est devenu le cas d'ailleurs pour les maires des petites communes, parce qu'il y a toujours ce débat. Je remarque simplement, je l'ai dit lors du qu'on évoquait les indemnités, que les rémunérations des élus sont largement inférieures au SMIC horaire, si on compte tout. Et donc, je dis, elles sont à la fois légales, elles sont parfaitement légitimes. Et ceux qui acceptent d'être dans ces conseils, qui ne doivent pas être pour moi des simples chambres d'enregistrement, mais des lieux où on réfléchit, des bancs où on examine, où on contrôle, et qui participe à la vie interne de la structure, qui ne se limite pas aux réunions de conseil d'administration. Ce sont des indemnités qui se pratiquent partout ailleurs et qui le sont. Et je me permets de rajouter que nous sommes en plus à l'Eurométropole de Metz à un montant d'indemnité qui est inférieur à celui qui est pratiqué dans les collectivités locales que vous représentez, quoi, en tout cas que administrées par nos oppositions. Voilà. Donc, qui vote contre ? 8. Qui s'abstient ? 4. Je vous remercie. Pardon ? 3. 3. 3. Alors, nous passons au point. Donc, on est passé ça, c'est au point 9. L'adoption du règlement budgétaire et financier. Donc, conformément à l'article L1612-30 du CGCT, les collectivités appliquant l'instruction budgétaire et comptable M57 sont tenues de se doter d'un règlement budgétaire et financier. Par ailleurs, ce texte impose que ce règlement soit adopté avant le vote de la première délibération budgétaire suivant le renouvellement de l'Assemblée délibérante. Dès lors, bien que le présent règlement budgétaire et financier d'Eurométropole ait été approuvé par délibération du 3 février 2025, l'Assemblée délibérante doit l'adopter de nouveau. Le règlement budgétaire et financier vise à encadrer les règles de gestion budgétaire et comptable de la collectivité et à définir les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement pour la durée du mandat. Il est ainsi proposé au Conseil métropolitain d'adopter le nouveau règlement budgétaire et financier applicable et qui est le même que celui que nous avions déjà adopté. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et nous passons au débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Donc je vous rappelle que selon l'article L2312-1 du CGCT, le débat d'orientation budgétaire s'appuie sur un rapport d'orientation budgétaire dont les principaux éléments ont été précisés par le décret du 24 juin 2016. Les orientations budgétaires pour 2026 sont présentées afin que le Conseil métropolitain puisse s'exprimer sur la stratégie budgétaire pour 2026 avant l'examen du budget primitif. Donc le rapport sur l'orientation budgétaire présenté dans le PowerPoint rappelle le contexte économique, financier, institutionnel dans lequel s'inscrit la préparation du BP 2026 de l'Eurométropole, présente une analyse de la situation financière ainsi que des projections financières intégrant dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement 2021-2026 adopté par le Conseil métropolitain en 2021. Il propose enfin des orientations pour la préparation du primitif 2026. Et je donne la parole à Monsieur Thierry Horry.
Je suis désolé, je vais être un petit peu plus long que le président sur certains points. Je voudrais donc vous présenter ce rapport d'orientation budgétaire, d'abord en passant par le contexte budgétaire et la situation budgétaire de l'Eurométropole. Oui, je vais peut-être un peu plus vite que... Voilà. L'élaboration donc du budget 2026 se place à nouveau dans un contexte international tendu. La poursuite des conflits sur les continents européens et asiatiques, couplée aux nouveaux affrontements en Iran, crée des incertitudes majeures sur l'économie mondiale qui impacteront forcément le budget métropolitain. En ce qui concerne le budget primitif 2026, il s'inscrit dans un cadre particulièrement contraint, notamment en raison des dispositions de la loi de finances 2026, prolongeant et accentuant les effets déjà significatifs de celle de 2025, en particulier pour les EPCI tels que l'Eurométropole. Alors, on peut citer d'abord le maintien pour l'Eurométropole du Dilico, qui est un coût de 1,2 million d'euros pour notre collectivité, le décalage de perception du fonds de compensation sur la TVA, ce qui a pour conséquence de donner lieu à une année blanche pour l'Eurométropole, le manque à gagner sur l'exercice étant estimé à 4 millions d'euros par rapport à 2025, et si on fait, et du fait de la perception du reliquat de novembre et décembre 2025, et si on regarde en année pleine, c'est 8,5 millions que nous perdons. Suppression totale également de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle dès 2026 pour notre Eurométropole, soit une perte qui se rajoute à celle que je viens d'évoquer, c'est 2,5 millions d'euros par rapport à 2025. La recette en 2024 était 3,5 millions. Un écrêtement sur la compensation liée à l'exonération partielle de 50% des locaux industriels est mis en place. Le coût est presque d'un million d'euros également pour notre, ou l'impact est d'un million d'euros pour notre collectivité. En parallèle, mais ça nous le, c'est quelque chose qui touche toutes les collectivités, mais forcément la nôtre également, c'est l'augmentation de 3 points du taux de cotisation à la CNRACL qui se poursuit. Mais c'est une, alors pour le coup, une nouvelle dépense et non pas des recettes en moins, mais c'est presque 900 000 euros. Voilà ce que l'on peut dire. Et donc, en fait, l'ensemble des mesures de la loi de finances représente un impact négatif de près de 10 millions d'euros par rapport à 2025, parce qu'en 2025, on avait déjà des pertes. Mais là, en 2026, on rajoute 10 millions d'euros qui se décompose de la manière suivante. 5,3 millions d'euros en fonctionnement, en moins, et 4 millions d'euros en investissement en moins, et je n'ai pas compté le Dilico qui nous est donc pris par ailleurs. Alors, ce n'est plus le cas pour les mairies, mais alors c'est encore le cas pour les EPCI. Donc, dans ce contexte de nouvelles dépenses, forcément, de perte de recettes, l'Eurométropole fait face, comme l'ensemble des EPCI, à un important effet ciseau, venant réduire ainsi sa capacité à autofinancer ses projets d'investissement. Et en dépit de ces contraintes réelles, puisqu'elles sont chiffrées, évaluées, l'Eurométropole poursuit la mise en œuvre de son plan pluriannuel d'investissement 2022-2026, on y est encore dans ce PPI, PPI adopté en 2021, tout en assurant la continuité et le développement de nos politiques publiques en cohérence avec les orientations du précédent mandat. Et tout cela, il faut quand même le dire, l'affirmer, le dire haut et fort, c'est que nous proposerons quand même, enfin nous vous proposerons et le président proposera lors du vote du budget que les taux d'imposition soient maintenus au niveau actuel. Ceci étant, permettez-moi toujours de continuer sur la situation budgétaire de l'Eurométropole. Donc vous avez le contexte international et national et forcément la conséquence de ces impacts que je vous ai présentés sont, j'allais dire, adoucis par la reprise anticipée du résultat antérieur dès le vote du budget primitif. C'est presque 3 millions d'euros que nous pouvons réinjecter. Mais la diminution de l'épargne combinée au maintien des taux de fiscalité, la poursuite des ambitions métropolitaines entraîne une obligation de recours à l'emprunt, un recours à l'emprunt un peu plus fort que nous avions utilisé auparavant, mais comme vous le savez que nous avons eu une politique de désendettement particulièrement fort, et donc on a cette possibilité de recours à l'emprunt, et nous vous proposerons lors de la présentation du budget d'avoir un emprunt d'équilibre au BP 2026 qui pourrait s'élever à environ 71 millions d'euros. Pour mémoire, nous avions déjà significativement mobilisé l'emprunt pour l'investissement en 2025, puisque nous avions à cette époque-là emprunté 45 millions d'euros sur le budget principal et 12 millions d'euros sur le budget annexe transport public. En ce qui concerne les équilibres financiers prévisionnels du BP 2026, que vous avez donc projeté par ailleurs. Notez que les recettes réelles de fonctionnement devraient s'élever à un peu plus de 204 millions d'euros et les dépenses réelles à 190 millions d'euros, ce qui permet de dégager une épargne brute de 14 millions d'euros, qui est quand même sensiblement plus basse que celle que nous avions auparavant. Les dépenses réelles d'investissement sont, elles, estimées à 139 millions d'euros, et donc elles seront financées par l'épargne brute, les 14 millions dont je vous ai parlé, par la reprise du résultat, les 3 millions d'euros également dont j'ai évoqué le montant il y a quelques secondes, par des recettes propres d'investissement, notamment des subventions, 51 millions d'euros estimés, et le fameux emprunt d'équilibre à 71 millions d'euros. Pour rappel et à titre de comparaison, le BP 2025, les dépenses réelles d'investissement s'élevaient à 119 millions d'euros. Donc on a quand même cette année plus 20 millions d'euros d'investis pour le territoire. C'est une progression de 17%. On est vraiment en plénitude de notre PPI. Pour mémoire, pour ceux qui étaient là ou qui ont lu la presse, la Chambre régionale des comptes faisait état d'une situation financière saine de la métropole en fin d'année 2024. C'était bien sûr sans compter sur les projections que je viens de vous évoquer, mais en même temps, qui aurait pu connaître ces projections ou la guerre en Iran ou, j'allais dire, la loi de finances 2026 et notamment les pertes que j'ai évoquées et chiffrées grâce, bien sûr, aux services. Voilà déjà présenté le contexte budgétaire à la fois macroéconomique et sur concernant notre budget et notre métropole. Permettez-moi maintenant de vous présenter les orientations budgétaires que nous vous proposerons également pour cette année, étant bien entendu qu'on reste dans le cadre de notre PPI, de notre plan pluriannuel d'investissement, puisqu'on y est encore et toujours. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas à réfléchir dans les mois qui viennent sur ce qu'on devra faire pour les années à venir et le mandat qui s'ouvre. Mais on est peut-être très probablement dans une situation de transition avec la fin de notre PPI qu'il faut quand même bien évidemment abonder et puis ce qu'on devra faire et ce qu'on décidera ensemble de faire pour la suite. Alors, ceci dit, en ce qui concerne la transition écologique et énergétique, il y a d'abord l'aménagement du Mont-Saint-Quentin qui devrait connaître une nouvelle étape avec le projet d'acquisition de la maison forestière, l'engagement de travaux destinés à accueillir un espace pédagogique de sensibilisation à l'écologie pour les publics scolaires et le grand public. Il faudra également proposer un lieu d'accueil aux associations qui font vivre le site. Et puis le programme d'animation et de sensibilisation se poursuivra au travers des actions quotidiennes et de la fameuse fête du Mont-Saint-Quentin. En matière de gestion des déchets, l'expérimentation de la collecte des biodéchets se poursuivra en 2026 et sera étendue aux communes dans lesquelles la part de logement collectif est supérieure à 40%. Permettez-moi de citer Sichazel, Longjuillet-les-Metz, Montilly-les-Metz, Voipy, Saint-Julien-les-Metz, Metz et la belle ville de Marly. L'extension et l'aménagement du centre technique métropolitain qui se poursuivra également en 2026 et les aménagements qui devraient être finalisés au cours de l'année présente. Le verdissement de la flotte de véhicules de collecte se prolongera dans l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet sur le territoire. Et bien sûr, en matière de transport, l'année 2026 est marquée par la mise en œuvre du nouveau contrat de délégation. Le président en a parlé dans les représentations, on passe des TAM au TEM, qui seront en charge de l'exploitation du réseau. Et les investissements se poursuivront avec le démarrage des travaux de la seconde phase de création de la troisième ligne métisse. Et c'est plutôt pour cette année l'axe Fragnat, avenue du 20e corps américain, cher Jean-Luc, et les collègues de Montigny, et la finalisation du prolongement de la ligne métisse A en vue de préparer la création d'un parking relais et d'une station associée. L'Eurométropole continue également d'investir afin de maintenir un réseau de transport efficace et en bon état. Nous avons effectivement des dépenses sont prévues pour la mise en accessibilité des arrêts, la régulation du trafic, la priorité bus, la maintenance des plateformes métis, ainsi que des aménagements pour l'évolution du réseau à venir. Ces dépenses seront en partie, bien sûr, financées par la dynamique du versement mobilité ainsi que par le produit des recettes de billetterie. Et enfin, l'Eurométropole maintient son action en faveur de la rénovation énergétique avec le soutien à l'ALEC et la poursuite du dispositif primaire bois qui est destiné à aider les ménages à changer leurs installations de chauffage au bois par un équipement plus performant et moins polluant. On a vu les représentants il y a quelques minutes qui vont siéger à l'ALEC. Ça, c'était pour la transition écologique. Par ailleurs, nous avons également une orientation développement économique et attractivité. En ce qui concerne le développement économique et l'attractivité, notre politique agricole et puis quelque part de visibilité sera marquée par l'accueil au mois de septembre à Messmani, année encore là, de la manifestation Terre de Gym, considérée comme la plus grande fête agricole d'Europe, qui sera soutenue bien évidemment par l'Eurométropole. Le projet de cuisine centrale verra le lancement de la maîtrise d'œuvre pour sa construction sur le plateau de Frescati, ainsi qu'un accompagnement pour définir le modèle économique de la future SPL. En parallèle, le dispositif Envol AgriAlim sera maintenu pour soutenir les projets agricoles du territoire. L'ORT, l'opération de revalorisation du territoire, rentrera dans sa première année opérationnelle avec l'acquisition de 3 biens immobiliers. L'objectif sera d'engager progressivement les acquisitions et les travaux d'aménagement d'immeubles qui sont, pour en tout cas cette année, situés dans l'hypercentre de Metz et à Voipy, cher Cédric. Sur l'enseignement supérieur, l'Eurométropole restera engagée dans le plan de rénovation énergétique des bâtiments avec la rénovation de l'ENSAM, l'installation du nouveau chapiteau Circeol et le lancement des travaux d'extension des bâtiments de Georgia Tech Europe. Le soutien aux divers projets en matière de formation de recherche et recherche de l'Université de Lorraine sera poursuivi dans le cadre de l'appel à projet 2026-2027, cher Marc. Seront également budgétés la consolidation de l'école d'ingénieurs I2L, l'Institut Innovation Logistique, les projets de recherche développés dans le cadre aussi du CPER, recherche 2021-2027, ainsi que les chaires de recherche structurantes pour le territoire. Les travaux de modernisation et d'extension de l'Opéra Théâtre, qui ont débuté à l'été 2025, se poursuivront pour une date de livraison prévue pour fin 2027. Et dans ce cadre, la programmation 2026-2027 se tiendra à nouveau hors les murs, avec des spectacles délocalisés dans les différents lieux culturels du territoire, donc la cité musicale à Metz, la basilique Saint-Vincent, mais également le NEC à Marly, avec grand bonheur. Le musée de la Cour d'Or proposera également 2 expositions majeures, dont une consacrée au joaillier Weber. En plus du soutien aux grands événements culturels du territoire, au pop-up, Constellation et aux divers acteurs sportifs, l'Eurométropole organisera la 2e édition de l'Euromarathon de Metz qui se tiendra le 11 octobre prochain. Vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner. Enfin, la cohésion sociale et territoriale. Nous souhaitons, dans cette manière, donc, il y a d'abord la construction de la piscine métropolitaine qui s'achèvera avec une ouverture prévue après l'été. Elle permettra de pallier le manque d'équipements aquatiques sur le territoire, hein, qui est patent. Hein. Outre le versement de la subvention aux bailleurs et à la poursuite du dispositif d'aide à la pierre, 2 missions de gestion urbaine et sociale et de proximité seront lancées concernant les copropriétés Bernadette à Borny et Pierné au Sablon, qui permettront d'améliorer le cadre de vie des habitants. En parallèle du déploiement des dispositifs de vidéoprotection dans les communes et les gares et haltes ferroviaires, le déploiement du réseau privé métropolitain se poursuivra. L'année 2026 sera consacrée à la conception et la réalisation de la 2e tranche du réseau qui permettra de mailler les 25 communes restantes. Dans l'optique de bénéficier d'un bâtiment parfaitement adapté à l'activité de la police métropolitaine et de la brigade canine, l'aménagement de nouveaux locaux est prévu à Frescati. Dans ce cadre, l'année 2026 sera consacrée à la déconstruction des anciens hangars métalliques obsolètes et incompatibles avec le développement de ce fameux nouveau bâtiment. En matière d'aménagement des espaces publics, plusieurs opérations sont prévues sur le territoire. À Metz, on peut citer la finalisation du réenchantement de la place Coalin ou encore le remplacement de la passerelle d'accès au fort Queuleu. Sur les autres communes, la mise en valeur des abords de l'aqueduc gallo-romain d'Ars-sur-Moselle est prévue. L'aménagement des halles Solac à Voipy se poursuivra et dans le cadre de la concession passée, notamment avec la SAREM. Et afin d'améliorer le stationnement sur le territoire, un nouveau parking sécurisé sera créé dans le quartier du Pontifroid. Celui-là, il est attendu depuis des années. En ce qui concerne les ressources et le pilotage, En matière de ressources humaines, une hausse des dépenses est attendue. J'en ai parlé, due notamment à la hausse de 3 points des cotisations patronales à la CNRACL, mais aussi c'est endogène, avec prise en compte des mutualisations avec la ville de Metz, des directions d'urbanisme et des affaires juridiques en année pleine, qui seront financées, pour ce qui la concerne, par la ville de Metz, par le GVT, le glissement vieillesse technicité. C'est une comptabilisation en année pleine des recrutements intervenus au cours de l'année 2025. À noter qu'en 2026, les recrutements seront fortement limités. Seuls 3 postes seront créés. S'agissant des systèmes d'information, la cybersécurité demeure une priorité afin de répondre aux exigences européennes. Le plan de continuité d'activité sera actualisé et de nouveaux logiciels seront développés afin d'améliorer l'efficacité des services et de mieux répondre aux attentes. En matière de planification territoriale, une nouvelle procédure d'élaboration du PLUI sera engagée avec l'appui de l'AGURAM et des études complémentaires accompagneront les projets urbains, dont une réflexion sur l'avenir des tours Saint-Exupéry à Montigny-lès-Metz. Cher Jean-Luc, sur la coopération internationale, européenne et transfrontalière, la Maison du Luxembourg poursuivra ses activités en faveur de l'information des travailleurs frontaliers, tandis que la métropole restera pleinement engagée dans des échanges transfrontaliers, notamment à l'occasion du forum franco-allemand à Sarrebruck. Enfin, l'Eurométropole continuera d'accompagner ses communes membres à travers les fonds de concours et le fonds vert, afin de soutenir leurs investissements et accélérer la transition écologique. Alors, comme vous le voyez, c'est un programme particulièrement dense, mais c'est normal parce qu'on est encore dans notre PPI, avec des contraintes encore plus fortes et certaines non prévues, bien évidemment. Mais notre gestion, j'allais dire notre bonne gestion, nous permet effectivement d'accuser le coup. Maintenant, après, nous sommes dans une situation de transition. Nous verrons ce que nous réservera l'avenir, parce que l'ensemble des coups durs que nous recevons cette année, notamment au niveau de la loi de finances 2026, ne nous aide pas particulièrement. Et enfin, je voudrais remercier les services finances d'avoir fait le nécessaire pour m'aider à vous présenter ce rapport ce rapport d'orientation budgétaire. Merci, messieurs, dames.
Merci, monsieur Houry. Alors, qui demande à la parole? Alors, oh là là, alors, attendez. Ça fait du monde. Alors, monsieur Mertz. Alors, je ne vois pas très bien derrière. Alors, madame le Duc. Monsieur Roch. Monsieur Bernardi. C'est à 4 demandes dans votre groupe. D'accord, tout le monde parle. C'est bien. C'est demandé. Monsieur Anstett. Ah oui, quand même. Monsieur Navrou. Monsieur Leveau. C'est bon. Bien, donc monsieur Mertz.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est la première fois que je m'exprime devant notre Assemblée. J'en suis très honoré et cette situation de nouvel arrivant, si je puis dire, doit nécessairement m'amener à beaucoup de retenue et de modestie dans mon intervention. Je n'ai pas l'intention de délivrer des bons ou des mauvais points. Je veux simplement vous dire ce qu'un regard neuf peut apporter sur les éléments dont j'ai pris connaissance. Je dis aussi que une assemblée métropolitaine doit nécessairement fonctionner différemment d'une assemblée municipale. Il n'y a pas, comme dans un conseil municipal, une majorité et une opposition qui s'opposent, même si l'une et l'autre doivent toujours avoir le souci de l'intérêt général et d'un débat constructif. Mais a fortiori, dans une assemblée métropolitaine, où il n'y a pas ce rapport entre, à mon sens, une majorité et une opposition, et j'imagine, Monsieur le Président, qu'il y a peut-être dans votre exécutif des personnes qui ont une sensibilité politique différente de la vôtre et peut-être proche de la mienne. C'est une hypothèse, Monsieur le Président, je n'en sais rien.
Je vous le confirme.
Je dis, ça peut arriver.
Je vous le confirme, mais il y en a même dans ma majorité municipale. Ben vous savez, donc.
Alors oui, mais là, c'est un peu différent, Monsieur le Président, mais je ne vais pas ouvrir le débat. Et donc, partant de cela, il me semble que nous devons avoir un débat constructif, et le débat d'orientation budgétaire doit être, à mon sens, un débat stratégique. Et lorsque je regarde les chiffres et les nombres, plus exactement, qui nous ont été apportés par le vice-président chargé du budget, je suis interpellé par le fait que la Chambre régionale des comptes avait dit que la métropole était en sous-investissement. Je m'en souviens. Et pourtant, vous nous avez expliqué que le programme pluriannuel d'investissement 2022-2026 avait été initialement prévu à 400 millions d'euros et qu'il est monté à 563 millions d'euros. C'est beaucoup. Mais pour autant, le taux de réalisation, lui, n'est que de 46%. Ceci expliquant peut-être cela. Et vous nous avez expliqué, monsieur le vice-président, que le besoin d'emprunt pour l'année 2026 est monté à 71 millions d'euros, avec une forte dégradation de l'épargne brute. Et je vous ai écouté, j'ai écouté vos explications, et ce que j'ai constaté, c'est que, à mon sens, ce qu'il manque dans ce plan d'investissement pluriannuel et dans ces orientations budgétaires, c'est une vision stratégique de ce que doit faire une métropole comme la nôtre. Je m'explique. Les métropoles ont été pensées parce que dans le monde tel qu'il est, ce sont les grandes aires urbaines qui attirent les grands investissements, les centres de décision économique, les laboratoires de recherche, les grandes universités. Et donc, dans la mesure où dans notre pays, il n'y a pas de très très grandes villes, à part Paris, peut-être Lyon et Marseille, eh bien, organiser des métropoles, c'est se donner le moyen d'attirer ces grands investissements. Et donc, je me demande où est la stratégie de ce point de vue-là, et à mon sens, elle manque. On sait que, par exemple, au nord du département, certains EPCI ont considéré que finalement leur stratégie consistait à être une annexe du Grand-Duché du Luxembourg destinée à accueillir des travailleurs frontaliers. Cela ne doit certainement pas être la stratégie de Metz Métropole, qui doit avoir une stratégie qui lui est propre et qui lui permettra d'exister dans le monde tel qu'il va entre le Luxembourg au nord et Strasbourg au sud. Et c'est tout l'enjeu d'un plan pluriannuel d'investissement et d'un débat d'orientation budgétaire que d'être capable de développer une stratégie comme celle-là. Et pour le moment, et je le dis sans que vous deviez le recevoir comme une critique féroce, mais simplement comme une réflexion, je n'ai pas vu se dessiner cette stratégie. En quoi elle devrait consister, à mon avis? Tout d'abord, il doit nécessairement y avoir des éléments relatifs à la transition écologique. Nous voyons bien que le monde tel qu'il va est aujourd'hui au bord de très grands bouleversements qui exigent que nous repensions notre rapport à l'environnement. Je ne vais pas développer ce point, vous le connaissez, et il est en rapport avec, à mon avis, le deuxième point, qui est celui de la résilience. Car de plus en plus s'accumulent des chocs. Il y a eu celui de la crise sanitaire, de la Covid-19, celui de la guerre en Ukraine, maintenant celui de la guerre en Iran, et tout cela a des conséquences très graves sur l'organisation de nos sociétés, sur l'économie, sur la vie de nos concitoyens. Et donc, il me semble que nous devons avoir à l'échelle d'une métropole, une stratégie qui permet d'anticiper sur ces chocs qui se multiplient. Et puis, bien évidemment, il y a la question de la justice sociale. C'est le président Chirac qui, il y a 30 ans, parlait déjà de fracture sociale. Et nous voyons bien que nous y sommes maintenant. À l'échelle de l'agglomération, ou à Metz en tout cas, nous avons 25% de la population qui vit au seuil de pauvreté. Et donc, une métropole doit agir là-dessus. Parce qu'une société qui se fracture est une société qui ne peut plus avancer. Et puis, il y a à la fin, et c'est la question essentielle sur laquelle, à partir de laquelle, à mon avis, il faut développer une stratégie, qui est celle du développement économique. Il n'y a pas de territoire dynamique qui se projette dans l'avenir sans une économie forte et, à mon sens, sans une industrie forte. Car, et c'est peut-être la leçon des décennies passées, ce que nous avons oublié dans notre pays, c'est que ce qui fait la force d'une nation, c'est d'abord son industrie. Et ce qui fait la force d'un territoire, c'est son industrie, et nous avons des atouts. Nous en avons parlé pendant la campagne électorale, monsieur le Président, de manière assez superficielle, et je pense que le débat ici peut se poursuivre, même si, bien évidemment, la campagne électorale est terminée. Mais nous avons des atouts avec des universités, avec une université, des laboratoires de recherche et deux domaines d'excellence qui sont le domaine de l'énergie, avec notamment l'UEM, et le domaine des matériaux, des procédés matériaux. Sur ces deux domaines-là, il me semble que nous pouvons construire une stratégie de développement économique. Et je pense que c'est cela qui devrait apparaître dans le DOB et dans le futur PPI, qui sera probablement discuté dans les mois qui viennent. C'est cela qui devrait apparaître de telle façon que nous positionnons la métropole de Metz comme une métropole qui prépare l'avenir et qui n'est pas simplement un guichet pour venir abonder les projets des communes qui la composent et qui sont parfaitement respectables et utiles et qui doivent être bien évidemment accompagnés. Mais il doit y avoir quelque chose qui se situe à un autre niveau sur le développement durable, sur les transports en commun, sur le développement économique dont je viens de parler, sur la question sociale et notamment la question du logement, qui est une question cruciale aujourd'hui où on voit dans quelle situation se retrouvent nombre de nos concitoyens qui n'arrivent plus à se loger ou qui sont logés dans de très mauvaises conditions. Et donc ce que je vous propose, et je terminerai mon propos là-dessus, c'est que nous soyons le lieu d'un débat stratégique sur ce qu'il y a lieu de faire dans les années et même les décennies à venir pour faire de la métropole Messine une métropole d'avenir, une métropole dynamique qui se prépare et qui emmène sa population vers l'avenir avec confiance. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs.
Je vous remercie, Monsieur Merz. Donc, Madame Leduc.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je veux bien sûr commencer par remercier les services et les personnes qui ont œuvré à la rédaction du rapport qui nous permet d'avoir aujourd'hui ce débat d'orientation budgétaire. C'est en théorie un moment important puisque c'est le moment où nous discutons du cadre budgétaire et des orientations stratégiques qui vont marquer l'action de la métropole pour l'année 2026. Son caractère charnière entre deux mandatures en font toutefois un texte un peu léger, qui relève plus du bilan et dont l'objectif est plus de finaliser la mise en œuvre du programme pluriannuel d'investissement 2022-2026, pour lequel il reste beaucoup à faire, que de nous permettre de nous projeter réellement dans une discussion renouvelée. Je veux par ailleurs vous faire remarquer que je trouve curieux que nous ayons reçu aujourd'hui, et avant la tenue de ce débat, le budget, le rapport sur le budget primitif que nous aurons à traiter lors du prochain Conseil métropolitain. Je me demande si c'est bien légal qu'on reçoive le rapport sur le budget en amont de ce débat. On aimerait bien ne pas être qu'une simple chambre d'enregistrement, et là, pour le coup, ça se voit un peu. C'est le caractère charnière du document que nous examinons aujourd'hui, c'est probablement ce qui explique l'impression générale qui domine d'une stratégie budgétaire peu ambitieuse au regard des besoins des habitantes et des habitants de la métropole dans le contexte d'urgence sociale et écologique et dans le contexte national et international qui désaffecte particulièrement aujourd'hui. En introduction, dans le premier chapitre de ce document, vous posez l'équation intenable dans laquelle nous place le gouvernement, comme les précédents, avoir des ambitions pour notre collectivité, répondre aux besoins, ce qui doit être bien sûr notre objectif prioritaire, dans un cadre budgétaire national littéralement asphyxié par les dernières lois de finances qui opèrent un véritable hold-up sur les finances des collectivités locales. Ce contexte est factuellement évoqué, mais rappelons tout de même que ces coupes budgétaires résultent de choix politiques, ceux du gouvernement passés en force par le 49-3 et avec le consentement ou grâce à l'inaction complice d'une grande partie de la classe politique représentée aussi dans votre majorité. Cette loi de finances de 2026, ce n'est pas un effort de 2 milliards, comme il est dit dans le document, sur la base de ce qu'admet le gouvernement, mais c'est près de 5 milliards d'euros de coupes budgétaires, voire plus, affectant les collectivités, et ces coupes affectent particulièrement les intercommunalités. Par exemple, la baisse drastique du fonds vert, plus de 310 millions au niveau national, est absolument dramatique, car là, ce qui est clairement assumé, c'est de laisser de côté la lutte absolument cruciale contre le dérèglement climatique et pour l'accélération de la transition écologique et d'envoyer un message d'abandon aux collectivités locales. Alors même que, et c'est le GIEC qui le dit, 80% des mesures pour lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences se situent à des leviers d'action locaux dans les domaines du bâtiment, du logement, des transports, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'énergie, etc. Au final, une fois les nombreux coups de rabot passés, c'est pour notre collectivité un manque à gagner de 5,8 millions d'euros sur la section de fonctionnement et 8,5 millions sur la section d'investissement. C'est considérable, étant donné le contexte austéritaire dans lequel s'inscrivent en plus ces nouvelles coupes et le contexte d'urgence sociale et écologique. Mais c'est cette urgence sociale et écologique qui doit malgré tout et plus que jamais rester votre priorité d'action. Et ce contexte austéritaire que nous ne devons pas que constater, comme c'est fait ici, mais auquel nous devons nous opposer fermement, ne doit pas permettre de justifier des mauvais choix ou des actions qui ne soient pas à la hauteur. Pas à la hauteur car vous avez des marges de manœuvre. C'est d'ailleurs ce que disait le rapport de la Chambre régionale des comptes l'année dernière, épinglant notamment la métropole de Metz pour un manque d'investissement injustifié dans les transports en commun. La question des transports en commun, c'est un sujet absolument prioritaire et vous faites malheureusement les mauvais choix. Il y a d'énormes besoins d'investissement dans une flotte électrique moins coûteuse et plus écologique qu'une flotte de bus à hydrogène, dans un réseau efficace et qui permette un réel désenclavement des quartiers de la ville de Metz, je pense à Bellecroix, et des communes de la métropole dans lesquelles l'alternative transport ne peut pas être une réalité vu l'état de l'offre. Il y a des besoins pour répondre aux revendications légitimes relatives aux conditions de travail des salariés d'État, mais des conducteurs de bus notamment. Et enfin, il y a des besoins qui, certes, doivent coûter à la métropole, celui d'amorcer le chemin de la gratuité des transports en commun pour répondre prioritairement aux publics les plus fragiles, les jeunes, les faibles revenus, puis à l'ensemble de la population. Les transports en commun doivent être le sujet central de l'action de la métropole pour les années à venir, pour des raisons évidentes liées à l'urgence climatique et, je crois, plus que jamais, maintenant que nous vivons une crise du prix de l'énergie sans précédent, alors même que prendre sa voiture pour aller au boulot ou faire ses courses devient financièrement intenable pour beaucoup. Cette flambée des prix de l'énergie, vous la soulignez dans le document comme un élément de contexte, mais sans chercher à y apporter des réponses. Je vous soumets, par exemple, Monsieur le Président, l'idée de passer en gratuité les transports en commun tant que les prix de l'essence n'auront pas baissé pour revenir à un tarif supportable. Voilà un geste fort qui pourrait être un véritable soutien aux habitantes et habitants de la métropole dans cette période très difficile. Voilà une des grandes ambitions que devrait porter la stratégie budgétaire de la métropole, permettre aux gens de se déplacer de manière efficace, écologique et égalitaire. Et sur les autres sujets, là aussi, on reste sur sa faim. Et vos ambitions manquent d'ambition. Sur la gestion des déchets, rien n'est dit de l'action pourtant prioritaire à mener, celle de leur réduction. Sur l'attractivité du territoire, beaucoup de choses relèvent de la communication. Votre intérêt soudain pour Blida après des années d'abandon sonne faux. La mise en valeur d'une fête agricole organisée par les JA comme seule proposition face aux enjeux de l'agriculture aujourd'hui montre à quel point vous ne les avez pas saisis. Sur le sujet de l'alimentation, là encore, des réponses proposées ne sont pas à la hauteur des besoins et des enjeux, mais je laisserai ma collègue, Mme Bernardi, l'évoquer plus précisément. Sur le volet culturel, rappelons-le, les petites structures sont en grande difficulté, notamment dans le spectacle vivant. Il y a une demande forte de création d'un fonds métropolitain de soutien au spectacle vivant. Il faut y donner suite, car le rayonnement culturel ne passe pas que par la culture institutionnelle. Sur la question du logement, et notamment du logement social, pour finir, là, les ambitions ne sont pas à la hauteur, tant les besoins sont énormes. Il faut augmenter le nombre de logements sociaux, notamment par la lutte contre la vacance, en passant par la rénovation. Et sur la question du renouvellement urbain, il faut tout mettre en œuvre pour associer les habitantes et les habitants, car le renouvellement urbain ne doit pas être vécu comme une violence par les personnes souvent très attachées à leur quartier malgré les difficultés, comme c'est le cas à La Patrotte, par exemple, où j'étais cette semaine et où règne un grand désarroi. Pour conclure, Monsieur le Président, la stratégie budgétaire que nous devons mettre en œuvre pour 2026, mais en ayant en tête bien sûr les années à venir, devrait prendre à bras le corps et prioritairement ces sujets, car ils sont de l'ordre des besoins vitaux pour les habitantes et les habitants de la métropole. Alors, une forte augmentation de l'emprunt, 71 millions, et de la dette, qui est de 211 millions au 31 décembre 2025, oui, mais pourquoi faire ? Oui, si c'est pour des politiques publiques efficaces, au service de la population, avec des effets positifs sur le long terme, c'est là que la dette a du sens, et ce sens se mesure à la hauteur des ambitions et des actions. Je vous remercie.
Merci, Madame Le Duc. C'était Monsieur Roque.
Monsieur le Président, chers collègues, je me concentrerai pour ma part sur une politique particulière et centrale auprès des habitantes et des habitants de notre métropole, les transports en commun. Et un budget, c'est avant tout pour les habitantes et les habitants de notre métropole des services publics du quotidien. La politique de mobilité de l'Eurométropole de Metz pour 2026, mais comme pour les années précédentes, reste à notre sens insuffisante face à l'urgence climatique et aux attentes des citoyens. Concernant d'abord le développement des mobilités douces et notamment du vélo, la multiplication des pistes cyclables est une bonne nouvelle. Mais je le rappelle, comme les associations et les usagers le font sans cesse, que la priorité ne doit pas être au développement des pistes par-ci par-là, mais à la mise en place d'un réseau cyclable continu, sécurisé et interconnecté à l'échelle métropolitaine. Nous devons construire la continuité plus tôt, là où c'est le plus important, en mettant en place le réseau express vélo au plus vite. Nous devons aussi agir pour multiplier les zones 30, les rues aux écoles, pour permettre les circulations apaisées, la sécurité de nos enfants. Ces orientations budgétaires sont très timides sur ce sujet. Concernant le verdissement de la flotte de bus, on peut noter un investissement fort avec l'arrivée de 20 bus hydrogène et la commande de 14 métis hydrogène, ainsi que 10 minibus électriques. Ce sont bien sûr des signaux positifs, mais Comme nous le soulignons depuis 5 ans maintenant, l'hydrogène reste une technologie énergivore et dont le coût de fonctionnement est particulièrement instable. Les aides de l'État elles-mêmes sont sur le sujet particulièrement instables. Notre métropole en sait quelque chose. Nous n'avons pas eu les subventions de l'État que nous espérions avoir. Surtout, ces investissements dans la flotte de bus arrivent en retard, alors que les métiers circulant actuellement sont pour plus de la moitié en panne, remplacés par des bus articulés que sur notre réseau circulent. Du fait du manque d'anticipation sur l'investissement, 10 bus très anciens, loués à nos frais à la RATP, la qualité de service en pâtit forcément. Efficace et en bon état, disait le rapporteur du budget il y a un instant en parlant du réseau de transport en commun, permettez-moi d'en douter un peu sur l'efficacité et le bon état. Notre réseau de transport en commun ne doit pas être la dernière roue du carrosse. De plus en plus de Messines et de Messins font le choix du transport en commun. Nous leur devons un service public de qualité. Force est de constater que sous le précédent PPI, la qualité des services s'est dégradée en matière de flotte. Tout n'est pas de votre faute, Monsieur le Président, je le reconnais volontiers, mais la mission que les citoyennes et les citoyens vous confient, c'est aussi de pallier aux erreurs du passé, au vent contraire, et en matière de transport en commun, la barre n'a pas été fermement tenue. La troisième ligne métisse, c'est le prolongement de la ligne A, dont il manque notamment le parking relais. Ce sont des projets structurants, mais ici, à nouveau, c'est le calendrier attentiste qui pose question. Pourquoi attendre tant de temps? Le projet est sur la table depuis des années maintenant et nous prenons du retard. Bien sûr, je regrette qu'il n'y ait aucune étude sur le prolongement vers Bellecroix sans couper les espaces verts. Oui, c'est possible. Mais je regrette surtout que le gros des travaux de la ligne C ne commence que maintenant, 5 ans après le lancement du projet. Dans notre métropole, le bus reste le parent pauvre en matière de mobilité. Le réseau de transport en commun, si l'on accepte les investissements lourds qui ne sont pas là tous les ans, nous avons le seul réseau de transport en commun bénéficiaire de France. Les usagers et le versement en mobilité rapportent en effet plus à notre métropole que nous mettons d'argent annuellement dans les services de transport en commun. C'est une situation absurde quand on rappelle l'urgence climatique et sociale à laquelle nous faisons face et surtout que les transports en commun sont un service public. Je rappelle que le GIEC recommande de diviser par deux l'usage de la voiture d'ici 2030. Ce n'est pas avec nos investissements petits bras et notre réseau ralenti que nous allons faire notre part. Vous le savez, nous faisons des mobilités douces et des transports en commun un axe majeur de notre volonté de changer la vie des Messines et des Messins, tant en matière de gratuité progressive que d'investissement. Nous ne pouvons imaginer de faire des transports en commun un service public qui génère de l'argent, comme c'est le cas aujourd'hui, plutôt qu'un service qui génère du bien commun et de la transition écologique, comme cela devrait être le cas. Le budget 2026 est un premier petit pas, mais il manque du courage et de cohérence en matière de transport. L'urgence climatique exige une rupture claire avec les logiques du passé. Le PPI 2027-2032 devra intégrer des objectifs contraignants de report modal et surtout les moyens qui vont avec pour développer les offres alternatives à la voiture. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Roch. Madame Bernardi.
Monsieur le Président, chers collègues, pour commencer, je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce document pour permettre le débat d'orientation budgétaire. À sa lecture, un projet m'a particulièrement interpellé, celui de la cuisine centralisée, sujet vital puisqu'il s'agit ici de parler de l'alimentation de nos enfants. Comme vous le soulignez, la création de cette cuisine centrale permettra à terme une meilleure gestion en mutualisant les coûts et en garantissant une production permettant de répondre aux besoins quantitatifs dans le bassin de vie. Elle permettra également de soutenir une agriculture de proximité. Pour toutes ces raisons, la création d'une cuisine centrale unique destinée à alimenter toutes les écolières et tous les écoliers de la métropole est une bonne initiative, mais qui, à mon sens, manque encore d'ambition. Si les questions de logistique, de gestion et de coûts sont prises en compte, il manque l'essentiel. Car ce dont nous parlons ici, c'est au travers de l'alimentation scolaire et bel et bien de la santé de nos enfants. À l'heure où le nombre de cancers explose, conséquence directe de l'utilisation de pesticides, une étude de 2026 montre que dans certaines zones très exposées aux pesticides, 150%, l'augmentation de risque de cancer augmente de 150%. À l'heure où la pollution au cadmium a des conséquences graves sur la santé, le cadmium, ce métal lourd présent dans certains engrais qui se retrouvent dans l'alimentation et s'accumule lentement dans l'organisme, est très difficile à éliminer. Son accumulation finit par provoquer des troubles rénaux, une fragilisation des os, des cancers, notamment des poumons,
cancer du pancréas, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que nous allons juste favoriser l'agriculture locale et faciliter l'installation de production bio. Nous ne pouvons pas continuer à placer la réflexion sur ce sujet dans un référentiel technique, financier et idéologique qui ne prend pas suffisamment en considération les questions de santé, d'environnement et de maintien de l'agriculture paysanne. Nous ne pouvons pas nous contenter de simplement respecter la loi Regalim à minima. Pour la santé de nos enfants, l'installation et l'emploi d'une cuisine centrale ne peut être légitime qu'à une condition claire, exigeante et non négociable. Il faut que 100% des produits utilisés soient issus de l'agriculture biologique en provenance de circuits courts. Les producteurs locaux en agriculture biologique, notamment celles et ceux regroupés au sein du GAB, Groupement des agriculteurs biologiques de Moselle, sont actuellement déjà en capacité de répondre aux besoins d'une cuisine centrale sur la métropole Messine. Il faut donc le plus rapidement possible contractualiser avec elles et eux et travailler sur la logistique pour approvisionner la cuisine centrale. On le voit, une restauration scolaire 100% bio et locale est possible. Elle n'est pas seulement une idée ambitieuse que la métropole devrait avoir, elle est un véritable investissement dans la santé des générations futures. Un choix de société, un choix de responsabilité pour chaque élu de la métropole. Merci de votre attention.
Je vous remercie, Madame Bernardi. Monsieur Secondet.
Oui, Monsieur le Président et chers collègues. Je commencerai par remercier les services pour le travail effectué, en particulier pour la qualité du document qui nous est soumis. Le chapitre introductif de ce document rappelle avec raison le cadre financier de plus en plus contraint dans lequel nous évoluons, conséquence notamment des deux dernières lois de finances qui étranglent littéralement les communes et les EPCI. Ce coup de pied de l'âne leur est donné après 15 ans de politique d'austérité, d'attaque contre les finances des collectivités territoriales comme moyen de réduire le champ du service public et d'étendre partout le marché. Désindexation de la DGF, impôts locaux supprimés au nom de la politique de l'offre, sans compensation au rapport, etc. Cette année, l'impact des nouvelles mesures, donc si j'ai bien écouté le vice-président aux finances, sera de 5,3 millions en fonctionnement et 4,3 millions en investissement. Ce même chapitre précise aussi que ce débat est l'occasion d'établir un bilan sur les opérations opérées. Je ne vais pas rentrer dans les détails de celles-ci. Un simple constat, le plan pluriannuel d'investissement de 563 millions d'euros est réalisé à 46% à un an de la fin de la période sur laquelle il court. Et n'y avait-il pas la manière de mieux faire? La Chambre régionale des comptes du Grand Est constatait à ce sujet fin 2025 que les investissements ont été plutôt modérés malgré une capacité financière favorable pouvant laisser penser à une sous-utilisation des marges d'investissement disponibles. Certains besoins d'investissement futurs, notamment dans les transports et la transition écologique, étaient-ils pointés, appellent à une mobilisation plus importante des moyens financiers. Cette capacité financière favorable, non mobilisée, trouve son origine notamment dans des recettes fiscales en inéquation avec les dépenses réelles et l'exemple de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, trop élevée au regard de celle-ci, est avancé. Pour le dire autrement, des impôts qui ne servent pas. En ces temps de difficultés de pouvoir d'achat, il est impératif de parvenir à de stricts ajustements en cette matière. Résultat en baisse, moins 2,9 millions d'euros en 2025, diminution significative de l'épargne brute à 14 millions, virement de la section investissement nul ou presque, dette à 211 millions à fin 2025. Le temps n'est plus aux frivolités, mais au pilotage fin, sans déborder de ses compétences, et s'agissant des grands projets, sans négliger la prise en compte des concertations lorsqu'elles existent. La transition écologique et énergétique, par exemple, les moyens financiers associés au dispositif de fonds de concours et du fonds vert ont rendu possible la réalisation de 335 projets, est-il rappelé? Fort bien. Mais puisqu'on parle du bilan, n'oublions pas l'échec du PLUI. S'il n'était qu'une préoccupation à avoir dans les 6 ou 7 années du mandat, c'est bien celle de l'arrêt de l'artificialisation des sols. Nous devons en effet laisser au maximum les sols qui restent à la nature, à l'agriculture, à l'infiltration des eaux. Il faut de même dans nos villes et villages rendre une partie des sols à la nature et pas l'en priver toujours plus. Quand je traverse certains villages de la métropole, quand je vois l'étalement urbain, des constructions sans charme, là où il y a peu, justement, cette saison fleurissait le colza ou sortait de terre blé et autres céréales, je suis vraiment attristé. Je suis sûr de ne pas être le seul dans cette assemblée à ressentir la même chose. Grossir. Pourquoi grossir? Gardons-nous de cette obsession de grossir à tout prix. De même, alors que nous entamons ce mandat, gardons-nous de nous précipiter vers le modèle prédominant, hanté notamment par le boost des flux touristiques, le choix d'un développement économique privilégiant la tertiarisation. Ces choix portent en eux le risque de travaux souvent totalement ignorants des besoins réels des habitants, des habitantes, de l'étalement urbain, de la division fonctionnelle et au bout du bout, d'une uniformisation des paysages et des pratiques et d'une ségrégation socio-spatiale. Je termine avec une réflexion un peu en marge, mais pas tant que ça. J'apprendrai rien à personne en disant que si je pose la question à des personnes dans la rue du nombre de communes de notre métropole, ou plus difficile encore, celle de ses compétences, une grande majorité ne saura pas répondre. La question de l'identité métropolitaine ne se réduit pas à une simple préoccupation superficielle liée au marketing territorial, même avec de gros budgets comme... On peut y voir plutôt celle de la démocratie et de la manière de gouverner l'institution. Or, avoir une identité métropolitaine incertaine, les politiques engagées risquent de manquer de légitimité et de perdre en efficacité. Renforcer la légitimité territoriale et politique de la métropole à travers son identité apparaît donc essentiel. Et pour parvenir à faire partager à ses habitants une identité, une même image de leur territoire, c'est créer de l'appartenance, susciter l'adhésion à un projet partagé, et c'est parallèlement réduire le sentiment de non-affiliation qui peut exister aujourd'hui, sentiment engendré par les inégalités et les ségrégations socio-spatiales. À nous de réfléchir comment, y compris en construisant notre budget. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Secondé. Après, Monsieur Anstett.
Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président en charge des finances, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de replacer un petit peu le débat. Donc, c'est un débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas une litanie de propositions politiques issues de programmes, que ce soit de la gauche ou du nouvel 21e adjoint de la ville de Metz, que j'attends avec impatience que vous nommiez officiellement. Bref, permettez-moi donc, en toute humilité, une remarque, une demande et un point de vigilance. Donc, sur le fond, la première remarque. Je crois qu'engager aujourd'hui en fait le débat d'orientation budgétaire sans qu'une commission des finances ait pu au préalable poser sereinement les termes de la discussion, interroger les hypothèses, parler du cadre, confronter les analyses, me semble à tout le moins un tout petit peu précipité. Nous sommes en quelque sorte placés en fait devant le fait accompli et je crois qu'une semaine, 10 jours, ce n'est pas assez parce que le document est vraiment dense et je salue également pour ma part le travail de vos services. Cette situation donne en fait le sentiment que l'on demande d'entériner davantage que de débattre. Ça aurait été, je pense, plus aisé de le faire en fait avant les élections. Je crois que c'était possible et nous aurions pu travailler dans des conditions, je crois, un petit peu plus rigoureuses. Au-delà de cette question de méthode, je souhaite également formuler une demande de fond à vos services quant à la construction même de ce document. Un budget, comme un débat d'orientation budgétaire, ne saurait se limiter à une succession de lignes, un débat d'intention. Il doit s'inscrire, je crois, et ça m'est cher, dans une logique d'évaluation, de performance. Or, vous savez, et c'est très important pour moi, je regrette l'absence dans ce rapport d'éléments suffisamment précis permettant l'impact des politiques qui ont été menées dans le passé. Comment décider de reconduire, d'amender ou de réorienter une dépense si nous ne disposons pas d'indicateurs clairs sur son efficacité? Car vous en conviendrez, pour savoir d'où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Comprendre si l'argent public utilisé dans tel ou tel projet a porté ses fruits pour nous améliorer. Je formule donc un vœu, c'est inclure en fait au DOB dans les prochaines années des annexes comme un jaune budgétaire, j'espère que ça ne va pas trop alourdir en fait le travail des services, c'est surtout mon point, comme c'est le cas donc dans d'autres pays, dans d'autres EPCI, avoir un jaune budgétaire pour comprendre en fait quel est l'impact des politiques passées, voire et éclairer en fait le débat sur les politiques à venir. C'est donc mon vœu. Et je souhaite terminer donc par une mise en garde. Je tiens à saluer un point, c'est que la dette en soi, elle n'est pas mauvaise. Elle est plutôt bonne, c'est un outil d'investissement, c'est un levier utile au développement de notre territoire sur à peu près toutes les politiques. Mais c'est précisément le point que je veux soulever ici. Nous vivons dans un contexte, ça a été rappelé par M. Horry, qui est celui des taux d'intérêt qui augmentent, qui sont élevés et qui appelle à la prudence. Or, le rapport lui-même souligne une dégradation marquée de l'épargne brute, venant réduire notre capacité d'autofinancement. Et petit point de géopolitique, je crois très honnêtement que les taux ne vont pas réduire. Et on ne sait pas, personne ne sait ce que la BCE va faire, mais sans doute les taux de refinancement vont augmenter, les taux directeurs vont augmenter. Et donc les intérêts de la dette passeraient de 1,6 million d'euros en 2025 à 3,3 millions d'euros en 2026. C'est donc 3 millions d'euros qui ne sont pas utilisés en fait pour la politique des Messins et surtout des habitants de la métropole. Voilà, c'est simplement une mise en garde. Et pour l'ensemble de ces raisons, de méthode, de fonds et de prudence financière, je ne pourrai en responsabilité pas soutenir ces orientations budgétaires. Je vous remercie.
Merci, monsieur Anstett. Monsieur Navreau.
Monsieur le Président, ça marche ? Ça marche ? Monsieur le Président, chers collègues, moi je vais intervenir sur le volet du logement. Les temps sont durs pour les collectivités, les EPCI et les communes. Nous arrivons en fin de PPI et à l'aube de ce nouveau mandat et à l'aube de ce nouveau PPI, l'heure sera forcément au bilan et aux enseignements que nous avons en tirés. Mais l'heure est aussi aux vœux qu'on peut formuler. Alors, en matière de logement, dont je rappellerai que nous avons pris la compétence des aides à la pierre il y a 5 ans déjà, et 5 ans après, donc les enseignements à tirer sont nombreux. Nous avons soutenu de manière notable le développement, la politique de l'habitat sur la métropole. Alors, il y a des choses qui ne coûtent pas, comme par exemple des agréments qu'on va délivrer pour développer le parc de logements sociaux, comme les garanties d'emprunt qu'on accorde aussi aux bailleurs sociaux. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui coûtent, et notamment donc les aides à la rénovation énergétique pour le parc privé, et notamment en faveur des publics les plus modestes, les opérations de renouvellement en rue, les opérations de requalification du territoire, l'accession aidée, l'accession sociale à la propriété que nous avons également mis en place, et puis le budget qu'on a alloué donc pour ce volet-là depuis des années nombreuses s'élève à peu près 2 millions d'euros par an. Et force est de constater, et c'est le vœu que je formule à cette assemblée, c'est un message à faire passer que ces 2 millions d'euros, et le président en est conscient, que ces 2 millions d'euros qu'on a abondés chaque année ne sont plus suffisants, et il faudrait dans les années à venir, dans le PPI à venir, l'abonder de manière un peu plus substantielle. Il y a aussi toutes les copropriétés dégradées donc, qu'on accompagne et qui sont de plus en plus nombreuses et qui coûtent aussi de l'argent donc public. Il y a des opérations de requalification, de reconversion qu'on accompagne, comme les tours Saint-Exupéry à Montigny-les-Metz par exemple. Donc beaucoup, beaucoup de projets. Et puis le soutien aux bailleurs sociaux, notre SEM, qu'on soutient aussi de manière notable pour le développement de son parc et aussi pour l'entretien de son parc. Donc voilà, je forme le vœu que pour le volet habitat-logement, on ait conscience que nous avons besoin d'un peu plus d'argent sur le prochain PPI. Merci.
Merci, monsieur Navreau. Monsieur Cédric Goutte.
Merci, Président, chers collègues. On l'a évoqué juste avant. Il faut aussi de savoir d'où on vient. Je ne vais pas revenir très longtemps dans le passé. Vous rappelez ce qu'on appelait avant l'OPAC, qui était l'ensemble des logements qu'on a connus après par le biais d'MHT, et cette transformation également d'un office public d'habitat en SEM. Monsieur le Président, je me souviens, j'ai pris votre succession à la mairie de Voipy en 2017, et je me souviens avoir eu la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle MHT, avec également l'office de Montigny qui a été intégré et qui était dans un état largement supérieur à ce qu'on avait pu avoir au sein de l'OPAC, à la fois sur Metz, mais également sur Voipy. Et Monsieur le Président, quand vous avez vu l'État en prenant également les rênes de la métropole, vous avez vu que le logement était indigne. Ce que je pense qu'il faut aussi se le dire, on le voit dans les logements sociaux et je l'ai vu. Après, on a des personnes d'une certaine apparenté politique, qui aime notamment pointer du doigt et justement créer en plus encore cette misère, mais sans pour autant expliquer ce qui est en cours ou ce qui est déjà validé budgétairement. Vous avez cette SEM qui, grâce à l'arrivée d'apporteurs privés, permettent en l'occurrence de faire ces travaux-là. Et je salue le travail qui a été fait par la présidente actuelle Anne Fritsch-Renard, mais également par l'ancien président qui était M. Lucien Betsch, qui, quand ils ont ouvert l'ensemble des tiroirs, ont vu que c'était catastrophique. Et j'évoque pas qui en avait la gestion et quel parti politique en avait la gestion. La volonté, c'est aussi de montrer ce qui est validé actuellement sur cette scène. Je vais prendre forcément Voipy, parce que c'est un sujet qui me concerne, mais on trouve le même parallèle à Metz, parce que sur un quartier qui s'appelle le quartier des Kenborn, qui est à la fois sur Voipy et sur Metz, l'objectif était le même. Dans 15 jours, nous allons avoir les premières rencontres avec les habitants pour 519 logements qui vont être rénovés avec 47,6 millions d'euros d'investis grâce au soutien notamment de la SEM et de l'ensemble des partenaires privés. Et heureusement que cette modification a pu avoir lieu, parce que sinon on n'aurait pas pu faire l'ensemble de ces travaux. Alors bien sûr, on entend également une certaine partie des personnes qui ont pu prendre la parole d'apparenter, on va dire, de l'union de gauche, comme je peux l'entendre pour certains, évoquer le fait qu'il ne faut surtout plus construire et mettre de l'habitat. Alors attention, on a des dents creuses sur certains endroits en termes de possibilités de construction. Il faut continuer à faire ce principe de construction. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on permet en l'occurrence à des personnes qui sont dans des logements sociaux de pouvoir avoir la possibilité de rentrer dans des pavillons. Et si on n'a pas de construction de pavillons, on n'aura pas la possibilité notamment de répondre à l'ensemble des critères et de leur permettre de pouvoir continuer à vivre dans leur logement, dans leur secteur. Monsieur le Président, on l'a évoqué également avec l'ORT. Alors on parle de vacances. La vacance sur certaines villes, elle est anecdotique. Je parle forcément aussi de Voipy. On est sur des éléments qui dépassent à peine 1%, voire 2% de vacances. Mais sur les seuls 2% de vacances, on a travaillé également sur l'opération de redynamisation du territoire, des ORT, avec également le soutien de la SEM. À vouloir justement identifier des bâtiments que des investisseurs privés n'avaient pas la capacité de pouvoir amortir et de pouvoir le travailler sur deux phases. Première phase, la transformation de certaines cellules commerciales qui se trouvent en rez-de-chaussée. Deuxième phase, la rénovation de l'habitat pour permettre justement à ce qu'on puisse avoir des logements qui puissent de nouveau être mis sur le marché avec cette volonté de pouvoir répondre à cette demande. Parce que tout le monde souhaite rentrer dans des logements qui peuvent être dignes, mais qui ont également, avec des critères qui leur sont donnés. On voit, hélas, beaucoup de logements qui peuvent être des T3 ou des T2 avec de temps en temps 3 voire 4 enfants. Il faut aussi leur trouver ce type de solution. Donc c'est aussi de cette manière-là qu'on va pouvoir répondre à cette demande. Alors vous allez me dire, on n'en fait pas assez. Mais on en fait déjà beaucoup et on va continuer à travailler dans ce cadre-là parce qu'on est à l'écoute de nos administrés. On est à l'écoute de pouvoir justement répondre à ces différents besoins et on a déjà travaillé en amont pour pouvoir amener ces solutions-là. Et c'est pas en 6 mois qu'on arrive à travailler sur ces sujets. Quand on lève 47,6 millions d'euros pour 519 logements, ça demande également un travail en amont. Et en tout cas, je voulais à la fois féliciter le travail de cette transformation et également les actions qui sont menées pour pouvoir permettre à chacun d'avoir un logement digne. Et je pense qu'on peut travailler de cette manière-là, sur l'ensemble de tous les champs, dès lors qu'on veut travailler ensemble. Merci, Président.
Merci, Monsieur Goutte. Monsieur Lebeau.
Monsieur le Vice-président, chers collègues, disons-le clairement, c'est un débat d'orientation budgétaire de vérité. Tout est mis sur la table, clairement. Rien n'est caché, tout est transparent. Vérité d'un contexte instable. Vérité d'un effort imposé par l'État de 10 millions d'euros qui demande un effort important aux collectivités au regard de sa dette abyssale. Et vérité d'un fin de cycle d'investissement pour notre métropole. Oui, l'Eurométropole a beaucoup investi. Plus de 500 millions d'euros pour moderniser notre territoire. Nous pouvons en être fiers, mais cette ambition a un coût. Aujourd'hui, nous faisons face à un effet de ciseau, des dépenses en hausse et des recettes sous pression du fait des décisions de l'État. Résultat, notre épargne brute diminue et l'emprunt augmente. Nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts en 2026, comme l'a souligné Thierry Horry, et je soutiens cet engagement. Mais cela nous oblige à une gestion des plus rigoureuses. Chaque euro compte. Nous devons avoir le souci de l'économie des deniers publics, comme l'a souligné notre président tout à l'heure. J'ai entendu par les orateurs, qui ont sans doute mal lu, que les priorités ou la stratégie n'étaient pas claires. Or, elle a été exposée très clairement. Première priorité, transition écologique. Alors, vous avez dit, cher collègue, que vous ne voyez rien en transition écologique. Ben regardez ce qui est fait. Troisième ligne du Métis, c'est pas la transition écologique, faut me dire. Ensuite, j'ai entendu dire qu'il n'y avait rien sur l'activité économique pour soutenir l'entreprise d'emploi. C'est le deuxième axe qui a été présenté par Thierry Horry. Et enfin, troisième axe qui a été présenté par Thierry Horry, cohésion territoriale pour un développement équilibré, avec la construction et la réalisation de la piscine métropolitaine de Voipy qui profitera au plus grand nombre des métropolitains. Alors, je veux bien, mais relisez, mes chers collègues, lisez, relisez. Tout, malheureusement, tout ne pourra pas être fait. Il faudra choisir, hiérarchiser, parfois, malheureusement, renoncer. C'est cela la responsabilité. Nous entrons dans une phase beaucoup plus contrainte où la lucidité doit guider nos décisions. Préparer l'avenir, c'est bâtir un programme d'investissement à la fois ambitieux, mais surtout soutenable pour nos finances publiques. Une métropole forte ne devrait pas être celle qui dépense toujours plus, celle de la gratuité, celle des rêves sur le dos de je ne sais pas qui. Derrière, souvent, la gratuité, il y a des coûts, et à la fin, il y a surtout un contribuable. Mais celle qui sait où elle va et qui tient ses engagements. Voilà l'axe que nous devons avoir, Monsieur le Président, de notre métropole, à nous d'être à la hauteur. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Lebeau. Je vais redonner la parole au rapporteur, Monsieur Horry.
Bien, je fais mienne l'intervention d'Emmanuel Lebeau, évidemment, mais pas seulement. Je voudrais dire que, notamment vis-à-vis de nos opposants, en fait, on a entendu des interventions classiques. C'est classique dans une collectivité locale où un opposant, par rapport à l'action de la majorité, on fait toujours trop, trop peu, trop tard, mais c'est toujours trop, quoi. C'est en fait ce qu'on entendait sur le manque d'ambition des uns et des autres, hein, je l'ai entendu plusieurs fois, mais c'est classique, effectivement. Je voulais juste dire deux choses. D'abord, la première, concernant la situation financière et la Chambre régionale des comptes. Oui, effectivement, elle a eu, la Chambre régionale des comptes, une belle analyse, mais en ayant le regard sur le rétroviseur. La problématique, c'est que la Chambre régionale des comptes a eu plus de mal pour anticiper, pour voir la trajectoire que nous avions, et donc l'effet de ciseau qui a été évoqué également par Emmanuel Debeau. Alors, on ne sait pas, en même temps, la Chambre régionale des comptes n'a pas de boule de cristal, et donc forcément ne pouvait pas effectivement revoir ceci. Je ne jette pas la pierre aux magistrats de la Chambre, mais c'est une chose que de dire qu'on a bien agi après de voir la trajectoire, c'est complètement différent. Et oui, comme disait Emmanuel, mon collègue, Monsieur Lebeau, c'est intéressant d'avoir un nouvel œil, un bon œil, mais aussi il faut avoir de bonnes oreilles. Et donc, effectivement, quand on a présenté nos orientations budgétaires, les deux premiers points, c'était transition écologique, hein, bien sûr, nous n'avons jamais autant fait, notamment dans l'accélération des mobilités, dans la diversité, et également au niveau du développement économique, et j'en veux pour preuve juste un sujet, c'est l'enseignement supérieur, mais ça a été développé dans mon propos. Je ne vais pas reprendre le propos que j'avais par ailleurs. Alors donc, effectivement, il nous faudra toutes et tous avoir un œil nouveau pour avoir également donc une vision, pas simplement un œil nouveau, et donc pour voir ce que nous devrons faire pour le prochain PPI. Et là, on est en année de transition. Et donc, nous avons reçu toutes et tous le budget. On est dans une année atypique. C'est la loi qui l'oblige. D'abord, on doit l'adopter avant fin avril. Et puis, il y a des délais qui courent. Bon, c'est la première et dernière fois, sûrement, de ce mandat que ça se passera comme ça. Mais ça s'est fait de cette manière. C'est normal. Je veux dire qu'autant respecter la loi, on est dans une année atypique par ailleurs. Ce que je voudrais dire, surtout, moi, je voudrais parler aussi de la problématique des mobilités. J'ai pas d'œil nouveau, mais j'ai en tout cas des antécédents. Et depuis quelques années que je suis à la métropole, je n'ai jamais vu autant de développement des mobilités, notamment dans la diversité. Alors, il n'y a pas simplement la troisième ligne de BHNS, il y a tout ce qui est autour du vélo et des pistes cyclables, mais également dans le transport à la demande, etc. Je veux dire qu'on n'a jamais fait autant dans les mobilités. Un petit focus sur l'exigence pour certains gratuité les mobilités ou pour les bus. C'est pour moi, en tout cas en ce qui concerne nos recettes, ça serait un deuxième coup de hache vis-à-vis de nos recettes après celui d'État. Mais alors pour le coup, c'est nous qui nous ferions harakiri de manière budgétaire, et c'est à mon sens absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut développer l'offre, ça c'est certain, elle doit être de qualité, ça c'est certain, elle doit être écologique, en tout cas aller dans ce sens-là, mais surtout elle a un coût, et il faut qu'il y ait le prix juste qui soit payé par ailleurs. Et enfin, je resterai mesuré sur la problématique du PLUI quand j'entends qu'on doit être contre toutes les constructions. Moi je prends juste l'exemple, je dis mesuré, bien évidemment, on ne doit pas faire comme ce qu'on faisait avant sur les constructions, mais je prends juste mon exemple de maire parce que j'ai lu avec attention les colonnes du quotidien local qui faisaient part de certains de nos collègues, pas automatiquement à la métropole, mais si, quelquefois à Metz et ailleurs, où on avait des classes en moins ou des classes qui fermaient par ailleurs. Moi, je suis élu depuis longtemps à Marly, avant d'être maire, tous les ans, on adoptait une motion en disant à l'inspection d'académie, surtout ne fermez pas telle classe, surtout ne fermez pas, gardez-la. Depuis 2008, et parce que, oui, c'est un fait, j'ai développé l'urbanisme et l'urbanisation avec, en développant d'ailleurs, les logements aidés à Marly, qui sont passés de 14 à plus de 23 ou 24% actuellement. Mais depuis que je suis maire à Marly, j'ai plus de problèmes pour remplir mes classes. Elles sont là. Donc, attention, soyons mesurés. Il faut faire de l'écologie, mais il ne faut pas taper sur toutes les constructions, parce qu'il faut aussi accueillir les gens par ailleurs. Mais j'ai bien noté que, effectivement, nous entrons dans un domaine d'incertitude, mais ça, vous l'avez toutes et tous dit. Mais surtout, nous avons une dette qui est bonne, parce que cette dette, c'est de l'investissement pour nos concitoyens. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire en post-rapport.
Merci, Monsieur le Vice-président. Je voudrais dire effectivement, sans redire ce que vous avez dit, c'est que, il y a un jeu naturel dans l'opposition. J'ai moi-même siégé dans l'opposition dans certaines assemblées, donc je suis très indulgent et compréhensif. Dénoncer le manque d'ambition quand on ne sait pas quoi dénoncer de façon trop précise, même si précisément le texte, et je vous invite à mieux le lire, affiche réellement nos ambitions en termes de d'attractivité, de stratégie métropolitaine et de transition écologique. Ça a été largement développé par Thierry Horry et sur des thématiques particulières par Cédric Goutte, Frédéric Navroux. Je voudrais venir au cadre général, tel d'ailleurs que Emmanuel Lebeau l'a bien décrit. Nous sommes effectivement dans une situation extrêmement difficile. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des collectivités territoriales et c'est en particulier dans les différentes collectivités, les métropoles, qui sont plus malmenées même que les autres communautés de communes ou que les communes elles-mêmes. Il y a eu des époques comme celle d'Hollande où les métropoles avaient plutôt été privilégiées. Aujourd'hui, ça fait un certain nombre d'années que si on se compare aux autres, elles sont davantage lésées. Total, on parlait 10, mais si je fais le compte sur 3 ans, les pertes en année pleine, si je fais le total des recettes en moins et des dépenses obligatoires en plus, c'est 16 millions en moins en année pleine, c'est-à-dire quasiment 10% de nos recettes de fonctionnement. Peu de collectivités, quoi, la région est très fortement impactée aussi. Quant au département Mcelles-le-Saumois, le problème c'est à la fois chez elles l'explosion qu'elles ne peuvent pas maîtriser des dépenses sociales, puisqu'elles n'ont même pas la liberté de conception et de définition de leur politique sociale sur le RSA ou sur d'autres sujets, et donc c'est des dépenses mécaniques qui augmentent en même temps que les recettes sont cristallisées ou sont diminuées. Donc pour revenir à nous, c'est un cadre c'est extrêmement difficile. Alors moi je m'amuse un peu devant ce paradoxe, même si l'heure n'est pas aux réjouissances. Ce qui m'amuse, c'est de voir les procès qui nous ont été faits de sous-investissement. Nous avons investi fortement, mais de façon modérée et heureusement. Parce que si nous avions investi à hauteur que nous recommandait l'opposition au cours du précédent mandat, nous serions complètement dans la nasse budgétaire, nous sommes déjà en situation difficile, et d'être obligé de faire comme le maire de Hayange cette année, d'annoncer une augmentation forte de la fiscalité locale. Et je ne vous dis pas aujourd'hui que nous échapperons pendant ce mandat, mais nous examinons toutes les façons d'abord de l'éviter. On ne peut pas effectivement continuer, parce que ça va continuer. Ces dépenses obligatoires supplémentaires, ces prélèvements obligatoires et cette baisse des ressources avec des dépenses qui sont vraiment nécessaires. Donc c'est ce cadre facile. Alors il y a le jeu facile, oui, mais c'est votre majorité. Écoutez, il y aura des élections présidentielles l'année prochaine. Je ne sais pas ce qui en ressortira, mais ça m'étonnerait que celui qui en ressorte l'année prochaine serait trop beau pour le mandat, hein. Que celui qui a une baguette magique soit élu et nous la sorte, et qu'à ce moment-là, de magnifiques perspectives financières s'ouvrent pour le prochain mandat. Je peux même vous inviter à attendre peut-être un peu. On va faire un PPI, mais on pourra l'amender si tout d'un coup, ceux qui nous promettent monts et merveilles sont élus l'année prochaine et qu'à ce moment-là, l'horizon s'éclaircit pour nous rendre compte que nous pouvons investir au même rythme que les mandats précédents. J'aimerais y croire. J'ai du mal à y croire parce qu'il y a des réalités qui sont ce qu'elles sont. Qui est un pays, un État qui depuis des décennies paye à la fois les dépenses sociales, paye ses fonctionnaires, une sécurité sociale qui rembourse les soins et qui paye les retraites à crédit en empruntant à l'étranger, et qu'à un moment ce système a des limites, que ça n'a jamais été le cas des collectivités territoriales qui n'ont jamais emprunté que pour payer des investissements, qui représentent seulement 10% de la dette publique en représentant quand même les deux tiers ou les trois quarts de l'investissement public civil, et c'est effectivement elle qu'on va d'abord chercher pour payer la dette à travers le Dilico et d'autres. On avait même appelé ça avant fonds résilience. Il faut voir à quel point on parle de résilience à toutes les sources pour tout et n'importe quoi, puisque premier prélèvement, là, il y a 2 ans, ça s'appelait fonds résilience. Ouais, c'est extraordinaire de baptiser comme ça une simple ponction sur les recettes des collectivités. Donc, et moi, ce qui m'inquiète, et contrairement à ceux des élus politiques que j'entends dénoncer la politique de l'État, c'est que eux ne remettent pas en cause le fonctionnement de l'État. Souvent une administration absolument pléthorique, et je ne parle pas des services publics fondamentaux. Je ne parle pas des personnes, enfin infirmiers, je ne parle pas des enseignants, je ne parle pas des policiers, qu'on peut citer tous ceux qui rendent un service direct aux citoyens. Mais ces strates, quand on parle de millefeuilles, les premiers millefeuilles sont dans l'administration de l'État. en permanence. Non seulement l'État ne nous lâche pas la bride sur les compétences décentralisées, mais emploie plus de personnes à essayer de gérer à notre place, de contraindre, de réglementer l'exercice de compétences décentralisées. Quoi, il y a plus de gens au service de l'État pour s'occuper de l'aménagement, d'urbanisme, de la politique de la ville ou de l'aide à la pierre que nous en avons nous-mêmes à la métropole pour mettre en œuvre ces compétences qui nous ont été déléguées ou transférées. La réalité, c'est là. Et c'est pas un seul service, c'est souvent deux, trois ou quatre. Et c'est pas seulement les services des ministères, c'est en plus des autorités administratives indépendantes qui s'en mêlent, qui émettent des opinions différentes d'ailleurs de celles de l'État, et je ne parle pas du juge administratif, on l'a vu sur le PLUI, qui est plus en juge d'opportunité que de la légalité et qui a encore d'avis différents. Donc là où l'État n'a plus le pouvoir de faire, il exerce à fond le pouvoir de compliquer, de complexifier, de ralentir ou d'empêcher, et de façon très coûteuse. Et là où il a effectivement encore le pouvoir et il aurait même le devoir de faire, il n'a souvent plus les moyens de faire. Mais seulement on est ici une collectivité territoriale, voilà, et Madame le Duc, on en est désolé, mais on agit dans un exercice imposé. Alors vous dites, on ne peut pas se résoudre à l'équation qui est posée. Eh bien si, même si l'équation paraît impossible, c'est celle qui nous est soumise. Et nous sommes de modestes élus locaux qui devons aujourd'hui résoudre une équation telle qu'elle est posée, et c'est ça notre responsabilité. Alors, on ne va pas aggraver les choses avec des propositions complètement farfelues, effectivement, comme répondre par la gratuité totale des transports. Au motif, d'ailleurs, que le prix de l'essence augmente. Maintenant, c'est un nouveau prétexte, parce que même si l'essence était au plus bas, on nous expliquerait qu'il faut le faire quand même. Explique que ça, alors qu'on est déjà en difficulté budgétaire, c'est x4 le foncier, rien que pour ça. Et pour une régression écologique et sur le plan de la santé publique. Puisque la gratuité des transports n'emmène pas les automobilistes vers les transports en commun, parce que ça entraîne plutôt une dégradation qualitative qu'une amélioration qualitative qui pourrait faire passer les automobilistes aux transports en commun, mais ça amène les piétons et les cyclistes vers les bus. Or, c'est l'inverse d'une politique écologique responsable. Et nous, dans notre politique de mobilité, soit clair, la priorité, c'est les mobilités, on appelle douces et actives, pour parler la novlangue. C'est la marche, c'est le vélo. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de plus écologiste et de plus vertueux sur le plan de la santé. Et donc partout où c'est possible, c'est ce qui est encouragé. Quand on est sur des objectifs, quand on a des trajets plus longs, ou qu'on n'est pas, on n'a pas la santé pour le faire, oui, il faut qu'avant qu'on soit contraint de prendre une voiture particulière, on puisse avoir une bonne offre de transport en commun, à condition qu'elle soit cependant rationnelle. Parce que si on va chercher des fréquences très serrées sur des communes très éloignées à très faible densité, à un moment, non seulement c'est cher en finances publiques, mais c'est contre-performant au plan écologique. Je suis désolé, trois personnes dans un bus, ça pollue plus que trois dans une voiture. Donc, donc il doit y avoir un minimum de rationalité. Et le principe de la gratuité, même si c'est une gratuité et totale, est à combattre parce que ça entraîne également même un gaspillage de la mobilité. La mobilité a un coût. Et elle a un coût même pour la collectivité. Elle a un coût pour l'environnement. Donc on ne doit pas se déplacer complètement gratuitement sans aucune utilité. La mobilité est déjà très fortement aidée. Je rappelle que nous subventionnons déjà les trois quarts du budget mobilité, c'est-à-dire les trois quarts du prix du bus ou de l'abonnement, et qu'on a une tarification sociale poussée. On paye les étudiants payent moins cher le bus à Metz qu'à Nancy. Et même si on pousse toujours la tarification sociale pour répondre à des besoins sociaux, il ne faut pas arriver au niveau de la gratuité totale qui est complètement déresponsabilisante et qui serait contre-productive et qui en plus n'est pas, qui se fera au sacrifice d'autres politiques de la métropole. Il n'y a pas sur le choix, peut-être c'est toujours le choix électrique ou hydrogène. Nous avions fait des calculs exactement sur les choix électriques ou hydrogène. L'électricité par rapport à l'hydrogène supposait soit de réinvestir sur les lignes, c'est un investissement supplémentaire, puisqu'il faut pouvoir au moins biberonner sur la ligne, ou alors de recharger, d'avoir des temps de recharge plus longs, et donc pour un même temps d'utilisation, en fait, immobiliser véhicules et chauffeurs. Donc au total, on a regardé, et sur le plan économique, c'était le même. Qu'est-ce qui nous a décidé d'expérimenter l'hydrogène ? C'est que c'est le plus vertueux, puisque c'est en quelque sorte, quand l'hydrogène est vert, ce qui est bien notre projet, c'est l'électrique sans les batteries. Et les batteries posent aussi un problème environnemental. Nous ne sommes pas du tout dogmatiques et nous faisons les deux. Voilà. Et nous continuerons à faire les deux, parce que là encore, les transports collectifs ne sont pas forcément vertueux que parce qu'ils sont collectifs. Certains pensent que dès que c'est collectif, c'est vertueux, qu'il s'agisse du logement ou des transports. C'est un peu d'esprit collectiviste là qui prédétermine la pensée. Non, un transport collectif qui est polluant n'est pas en soi vertueux. Pour ça d'ailleurs que nous sommes passés à l'électrique et à l'hydrogène. Alors c'est vrai que la France et l'Europe sont aujourd'hui plutôt en retrait sur l'hydrogène. C'est un peu dommage et c'est même très dommage quand on sait que les Chinois, qui ont été tellement en avance que nous sur l'électrique, aujourd'hui sont à fond sur l'hydrogène. Et je crains qu'on loupe le train, effectivement, et qu'on ait encore une bonne décennie de retard dans 10 ans. C'est un autre débat, et nous aurons certainement l'occasion de l'avoir encore. Je ne veux pas venir sur les procès en... Je suis amusé aussi des paradoxes quand dans une même intervention, on nous explique qu'il faut tenir compte de l'avis de la population, par exemple dans les projets de rénovation urbaine, et que l'intervenant suivant du même groupe nous explique qu'il faut faire passer le métis à Bellecroix, ce qui a été expressément rejeté par les habitants du quartier, qui l'ont fait d'ailleurs de façon véhémente près de mon prédécesseur à la mairie, et qui n'en veulent pas. Donc c'est toujours ceux qui sont pour la démocratie participative, à condition qu'on soit du même avis qu'eux. Et qui autrement s'asseyent sur l'avis des habitants, c'est pas notre cas. Je vais de la même façon, autre contradiction, M. Secondet, vous nous invitez à ne pas déborder des compétences, il me semble pourtant que j'ai entendu l'un de vos colissiers nous expliquer qu'il fallait développer un fonds de soutien au spectacle vivant. Vous expliquerez que ce n'est pas du tout de notre compétence, même si, dans le cadre d'une compétence très resserrée, nous soutenons le festival au Pop-Pop en tant que manifestation intercommunale et métropolitaine, mais ce n'est pas en soi, nous n'avons pas la compétence développer un tel fonds de soutien. Ça ne relève pas du tout de la métropole. Et enfin, il a été répondu sur la question du logement. Je veux dire, attendez, il n'y a pas de mégalos parmi nous, hein, et on ne veut pas grossir pour grossir, hein, on est plus même certains, je vais plutôt faire attention à notre ligne, qui a essayé de chercher à grossir, non, on veut juste loger les gens, voilà, on veut juste loger les gens, et nous sommes déjà en plein dans une crise du logement, voilà, quand on a, et certains le dénonçaient, en 3 ans, les listes d'attente des logements sociaux qui a doublé, ce n'est pas parce qu'on a réduit le nombre de logements sociaux. C'est parce que c'est la demande qui augmente. Quand sur le marché libre, quand il y a 5-6 ans, il fallait un T2 en mise en location à Metz, recevait 10 demandes et qu'il en reçoit 100 aujourd'hui, c'est qu'on est en crise du logement. Voilà. Donc on a une demande énorme qui est insolvable, on a une offre qui existe mais qui est inabordable. Et aujourd'hui, non seulement le renchérissement des coûts de la construction, lié à la fois à la crise énergétique, à la crise des matériaux qui remonte à la Covid, lié à l'élévation sans cesse des normes de réglementation thermique, lié aussi à la rareté du foncier qu'on organise avec le ZAN et qu'on organise avec anticipation, parce que je rappelle que le ZAN, c'était à l'horizon 2050, même si beaucoup d'associations, LMRAE, considèrent que c'est pour tout de suite maintenant, nous place aujourd'hui dans cette nasse. Donc, on est, tiens à le dire, dans une situation assez difficile, avec toutes ces contradictions, ces injonctions contradictoires, ce cadre budgétaire extrêmement difficile, et pourtant, nous ne renonçons pas à répondre aux aspirations de base de nos concitoyens, qui sont le logement, qui sont l'emploi et l'insertion, qui sont la solidarité, qui sont la sécurité. qui sont le cadre de vie, qui sont, on n'en a pas parlé, et pourtant on porte beaucoup d'efforts, qui sont l'éducation et l'enseignement supérieur, pour que les jeunes puissent forger un avenir sur notre territoire. Voilà. Et tous les éléments d'attractivité, y compris d'ailleurs le développement touristique, qui est aussi un facteur de développement, eh bien, de valeur ajoutée, de richesse et d'emploi, au même titre que l'industrie, que la logistique et d'autres activités, et autant d'axes sur lesquels nous mettons en œuvre nos stratégies. Je vous remercie. Alors, nous, dans un DOB, nous ne votons pas, nous n'approuvons pas des orientations, monsieur Anstedt, hein, donc on ne vous demande pas d'approuver. Voilà, nous prenons. Je rappelle d'ailleurs que la loi n'exige pas un passage en commission, pourrait même se passer de commission, c'est une modalité d'organisation libre d'assemblée. En revanche, qu'elle pose une date butoir pour adopter le budget et un délai minimum entre le DOB sur le budget lui-même. Donc on tient ces délais, fait après les élections, ça aurait été quand même dommage de le faire sans vous. Voilà. Donc sur ce, je vous invite à prendre acte et non pas à approuver des orientations. Donc qui est contre le fait de prendre acte que nous avons débattu? Voilà. Qui s'abstient sur le fait que nous prenons acte que nous avons débattu? Voilà, donc à l'unanimité, nous prenons acte que nous avons débattu. Je vous remercie et je crois que c'est plus que la communication sur les décisions de l'exécutif. Voilà. Donc qui vous a été indiqué par papier. Je n'ai pas été saisi de questions ni de motions. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée.